change antenne fonctionne cette semaine, tu peux y aller?
Ah oui.
Non, moins barbu la voix s'il te plaît.
Oui.
Vous écoutez Radio FMR. Nous sommes le samedi 23 mars 2013. Nos programmes pour cet après-midi à 13h30 du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires et de l'infirmerie et une interview. À 15h du reggae avec Jeanne O'Dead et à 17h FMR, c'est de l'antenne à Booster FM sur les 89.1 MHz. Mais dans l'immédiat, voici la saga héroïque que vous attendez tous.
Précédemment dans le supplément week-end.
Alors Jean nous dit, le mois dernier je suis allé chez le dentiste pour me faire plomber une dent. Depuis ce moment-là, j'entends des voix dans ma tête. Au début j'ai cru devenir fou, puis après je me suis dit que ça lui avait bien réussi à Jeanne d'Arc, sacrée femme au foyer, se dit en passant. Bon après plusieurs jours.
Bravo, merci. Bravo, bravo. Voilà,
Bon après plusieurs jours et à force d'entendre des pubs, j'ai compris qu'en réalité je captais la radio. Ça a certains avantages, comme pouvoir écouter la musique sous la douche. Mais ça comporte aussi beaucoup d'inconvénients, notamment quand je capte rire et chansons lors d'un enterrement. Remarque, la dernière fois, ça m'a aidé à pleurer. Bref, tout ça pour dire que le samedi midi, pendant ma sieste, je capte votre émission. Auriez-vous l'amabilité de baisser le son, s'il vous plaît? Merci. Jean de Winchester, auditeur involontaire.
Mais avec plaisir, Jean.
Radio FMR présente... Le supplément week-end. Le magazine des cultures geeks. Avec du sport. Ultimatum. Das Creech. Et la participation exceptionnelle de JB.
Et non, toujours pas de JB, puisqu'il est toujours en congé paternité et à la recherche d'une chronique à écrire. Morgan n'est pas là cette semaine, et cette semaine, ma foi, je serai le handicapé total de cette émission. Pourquoi ? Pour une double raison. 1. Je n'aime pas le sport. Or, du sport, un bouquin chroniqué cette semaine, qu'il a déjà remis la semaine dernière, où il y a un N, un A, un T, un A, un L, un Z, mais c'est dans l'autre sens, c'est sur Zlatan. Et de l'autre côté, il va être question de Game of Thrones. Une série que je n'ai pas vue.
Eh oui, là, tu pars avec un petit handicap, mon cher Xavier.
Ah ouais, alors vraiment, un petit handicap. Et du sport en plus, tout à l'heure à 13h30, va recevoir du foot australien.
Ouais.
Donc.
Et alors ?
Bah, je sais pas, mais l'équipe d'Australie de foot qui vient à Toulouse dans le Super Week-end, ça va être un peu bizarre.
Non, non, ça n'a rien à voir, t'as rien compris. C'est du foot australien, ça s'appelle comme ça, ou Australian Rules, quoi, comme ils disent là-bas, quoi. Mais ça, c'est un mélange de rugby et de foot, enfin bon, il va falloir que tu écoutes pour comprendre, parce que bon, c'est...
Mais tu m'indiques en plus, c'était l'équipe de France, mais je comprends pas, quoi. Déjà qu'ils doivent se marrer, les Australiens en voyant.
Oui, mais c'est un sport qui se pratique pas qu'en Australie, quoi, c'est tout.
Oui, mais Xavier, ça, c'est une question que tu dois poser aux invités sportifs tout à l'heure.
Voilà. Non, non, moi, je me serais barré. Attends, tu imagines le sport. Est-ce que moi, je réalise des émissions de sport? Franchement.
Oui.
Pardon.
Quand il y a des boxeuses, oui.
Dans la gelée de Rosier à Ellie. Coup de tonnerre dans les cours de récré cette semaine. La célèbre marque de friandises Carambar annonce la fin des blagues écrites sur ses emballages. Ce sera remplacé par des jeux ludo-éducatifs.
Aïe, aïe, aïe.
C'est triste. Apparu dans les années 60, les blagues Carambar nous quittent donc définitivement. En tout cas, ça à partir du mois d'avril.
Ça a tenu des années 60 jusqu'en 2013.
Ouais.
Ils avaient assez de blagues pour meubler tout ça. Donc, elles revenaient quand même.
Elles revenaient, à mon avis.
Mais oui, elles revenaient, quoi. Enfin,
mais
des favorites de mes enfants, c'était deux petits pois qui se rencontrent. Et l'un qui demande à l'autre où t'étais hier, on t'a pas vu, t'étais pas en boîte.
Ça va être dur.
Ça va être dur.
Bref, tout ça pour dire que c'est notre identité nationale qui fout le camp, notre jeunesse qui disparaît et se fane dans les poubelles d'histoire géo. Oui, Black Carambar, tu étais notre compagnon de friponnerie d'école primaire, celui qui nous donnait envie d'apprendre à lire encore plus vite pour avoir la meilleure blague avant un an du premier rang. Tu avais le format idéal, celui des petits messages qui circulaient incognito dans la classe. Celui qui collait au fond de ses poches en attendant la récré. Malheureusement, si tu as résisté aux humoristes de la télé comme le bébé de show ou les guignols, tu n'as pas survécu aux petit genou qu'est Twitter, 7 ans d'âge, battu par un CE1. La honte. Quoi ?
Non, non, mais là, t'as carrément sorti le pot, quoi.
Ouais.
Ah ouais ?
Oui, non, mais normalement, tu devais me dire Twitter, 7 ans, CE1. Je devais dire, oui, il a vachement d'avance, il a appris à lire vachement plus tôt.
Mais c'était écrit, ça ?
Oui.
Merde.
Sur ma feuille, pas sur la tienne. Ah, les blagues racistes contre les Belges, les Juifs, les Arabes et les Français. Celles que Touche pas mon pote n'osait même pas attaquer, mais ça c'était avant. Avant que le CRIF mette un avocat derrière chaque writer et n'accepte plus que le Juif soit sur le pied d'égalité avec l'Arabe dans la blague, à savoir celui du con. Tandis que le Vlaams Belang, le parti nationaliste flamand, a insisté pour que tu précises que tes blagues sur les Belges concernent exclusivement les Wallons, pas les Flamands, ce qui t'a définitivement fermé le marché d'Outre-Quiévrin.
Sans déconner ?
Bon. Un petit peu quand même. C'était avant que les humoristes sur scène sortent tous d'école de commerce, sauf la femme de service qui aura fait l'ENA. Mais mettre un haut fonctionnaire dans une blague d'école, même si c'est Anne Roumanoff, ça marche pas forcément pareil. Ce changement de mentalité par rapport à la France de De Gaulle, cela t'a obligé à sérieusement épurer ton catalogue de vannes. Car contrairement à Colaro, tu as dû très très vite te mettre à la page. Et Toto, qu'est-ce que t'en as mis à Toto ? Hélas, Toto a grandi. Tu t'es fait traîner en justice par tous les monsieur madame Toto de l'annuaire. Et pendant ce temps, les éditions Delcourt t'ont doublé. On transformé en franchise ce personnage public. Une série de bandes dessinées transformée en série de dessins animés pour la télévision. Bientôt les trois films suivis du crossover avec l'univers camping. Et ça n'a pas... Là, t'as pas franchement réagi à temps. T'aurais pu faire valoir tes droits sur les créations intellectuelles. Tu es d'un autre temps, Carambar. Comme ton cousin Malabar qui a dû remiser ses biscottos et arborer sur la moitié de l'emballage en imposant rectangle légal avec écrit en Helvetica grâce l'abus de sucreries est dangereux pour la santé. Mais tu n'es pas seul. Anton Tchikov, par exemple, lui aussi, il est très drôle. Et lui, bah, il est enterré. Il n'a pas passé le cap du 19e siècle. Pour me souvenir de mes 5 années de gagman en blague téléphonée, et surtout suite à une tarte dont tu étais l'ingrédient principal, chez moi, il y a un pot, d'emballage de carambar avec marqué dessus « Confiture, laissez-moi dire ».
Alors, mais c'est pas que des emballages en fait.
C'est que des emballages, oui. C'est pour ça qu'ils sont très soigneusement, tu vois, proprement nettoyés et tout.
Ah d'accord,
nickel.
Je vois du coin de l'œil le jeu qu'on va faire.
Voilà, exactement. Au revoir, blague carambar. Les dentistes remercient pour nos caries. Alors, du sport, à toi d'en prendre une.
Allez. Attends, je vais aller
Attends,
dans le fond.
Elise et Moon, les amis de Mickelin. Deux poules discutent. Alors, quoi de neuf ? Je crois que je couvre quelque chose.
Oh putain. Vas-y, raconte.
Vas-y, à toi.
Attends,
deux crabes petit, ouais. Sont en train de se disputer. Une étoile de mer arrive. Attention, voilà le shérif.
Attends, fais passer le pot, je vais essayer d'en trouver une pire encore. Attends. Alors. Ah ouais, c'est vrai que c'est écrit en petit, c'est merde. Alors. Pourquoi dit-on que le fromage c'est bon pour la vue ? Réponse. T'as déjà vu une souris avec des lunettes ? Ah putain, attends, il y en a deux. Il y a deux
ouais,
blagues.
Il y en a deux, ouais.
Un entraîneur de foot à un joueur. Aujourd'hui, tu vas jouer avant. Ah ouais, mais elle est coupée.
Ah ouais.
Alors c'était
la blague.
C'était un tweet très drôle d'ailleurs de Boulet. Où il disait que la blague la plus drôle de Carambar qu'il ait jamais lu, c'était « Alors c'est un et un trace de gras et, ensuite, et la suite est coupée. » Donc voilà. Mais Thomas, il se régale là, hein, je te
ouais,
jure.
Attends, y en a une.
Et c'est sans sucre hein, là, les blagues, puisqu'on
pourquoi,
les a...
Pourquoi les marchands de savants font-ils fortune ? Réponse. Parce que leurs clients les savent honnêtes.
Bon, allez. Vous me rangez allez. Tous ces papiers. Tu vas refermer
attends,
ça.
Attends, il y en a d'autres, attends.
et dire qu'au départ, Thomas m'a dit, lors de la conf de rédaction téléphonique,
ah,
il
ça
m'a dit...
Ah, ça comme ça maintenant ?
Ah non, Xavier, pas le truc sur les carambars, c'est nul et tout, etc.
Non mais c'est bien, c'est un sacré objet de collection, tu fais bien de pas t'en séparer Xavier.
Non mais c'est une époque quoi, ça a disparu.
Bah, comme
quoi.
Ça tu les montreras à tes petits-enfants, et oui, de nos jours on savait rire.
Bon. On va commencer les chroniques bande dessinée avec...
Juste avant, une petite news concernant la bande dessinée, puisque depuis hier, c'est la série City Hall dont nous avions parlé ici. Série City Hall d'Ankama, c'est un manga fait par deux Français, Guillaume Lapeyre et Rémi Guérin, sur un univers steampunk que nous avions interviewé d'ailleurs au TGS, au dernier TGS, il faudra qu'on diffuse l'interview.
Exact.
Cette série City Hall a reçu donc le prix de la meilleure BD au style manga, version 2012, par les lecteurs d'Animeland, le magazine consacré à l'animation et au manga, voilà.
Sachant qu'en ce moment, c'est le Salon du Livre de Paris.
Oui, tout à
donc,
fait.
Donc, non, n'en parlons pas.
Ben non, on est Toulousains.
On pourrait, hein, on a des envoyés spéciaux et tout le reste. Du sport, Before Watchmen, pour commencer la partie bande dessinée.
Number 2, ouais, c'est ça, le numéro 2 de Before Watchmen, avec donc les différentes aventures des Minutemen, du Spectre Soyeux, du Comédien du Hibou et d'Ozymandias.
C'est les mêmes que le tome 1, donc.
Pas de problème, bah, c'est la suite hein, des histoires, donc des différents groupes. Toujours les mêmes scénaristes, les mêmes dessinateurs, dessinatrices. Pour Amanda Conner pour le Spectre Soyeux.
Alors je dois dire que j'ai attendu un peu avant de le lire, puisque tu me l'avais prêté il y a quelques temps déjà, et je l'ai lu il y a deux jours, et je me suis dit, je me demandais pourquoi j'avais autant attendu, c'est super bien. Moi j'avais un peu peur de ce que c'était par rapport
à... On était tous paralysés de peur.
C'est ça,
hein.
c'est ça, c'est le truc, bon j'y vais ou j'y vais pas,
c'est ça.
La peur d'être déçu.
Et franchement, ils sont très complémentaires, chaque segment met en valeur les autres. Moi franchement j'étais bluffé par la partie Ozymandias. Je n'attendais rien de ce personnage là et franchement
et c'est pas fini à mon avis.
D'accord.
Non ça il envoie franchement c'est le personnage que c'est le personnage tu te dis c'est le plus froid enfin il est plus froid hein, que Dr Manhattan, tu te dis en fait non pas du tout.
C'est-à-dire que
ça passe bien.
C'est surtout le personnage qui est pour les gens qui sont pas au courant, on va quand même le dire, c'est le traître. dans l'aventure originelle des Watchmen, et c'est le type qui à mon avis dans le film a été le plus maltraité.
C'est-à-dire
de tous les Watchmen, je veux dire c'est celui qui a le traitement le plus délicat, le plus ingrat à mon avis hein, et en plus ils ont choisi un type qui a une tête à claque, un acteur qui a une tête à claque donc vraiment tu vois ça rajoutait au truc, alors que là c'est quand même du solide.
Tu vois,
mais les autres
le
aussi
chercher,
mais les autres aussi de toute façon. Alors mention particulière, c'est un petit peu dur de dire ça, franchement c'est dur hein, de détacher un truc, de dire ça c'est vache. Je préfère ce segment à celui-là et tout, parce que c'est vraiment, comme vous le disiez, c'est un petit peu complémentaire. On sent qu'il y a vraiment une osmose hein, dans l'écriture des différentes histoires. Alors, comme d'habitude, le comédien, c'est bigger than life, quoi. Continue.
J'avais trouvé un peu en dedans, là.
C'est dommage, parce que bien l'idée que l'on a dans le générique du film.
Par rapport
à l'histoire originale. Là, c'est inverse. C'est dommage,
quand je dis bigger than life, c'est à dire que c'est le type, il est de tous les bons coups et il est dans tous les dans toutes les bonnes intrigues, c'est à dire que il se retrouve au sommet mais sans le vouloir forcément quoi, c'est à dire là dans le premier on apprend pas mal de choses et tout à propos de son acquaintance avec le président Kennedy, il se fait assassiner. Dans celui-là, il est en train de discuter avec Bobby, le frangin. Après, le meurtre de Jack. On sait que il a connu Jack parce qu'ils étaient sur le patrouilleur 109, quoi, dans les eaux du Pacifique pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors on se dit, quand même, il y a des trucs. Et alors, quand ils sont en train de discuter, là, dans le deuxième, ils sont au bord d'un ring en train de voir Cassius Clay, à l'époque pas encore Mohamed Ali, se faire un petit peu démonter la gueule, mais gagner quand même en 64. Tout est dit, quoi, mais le Spectre Soyeux, c'est pas mal, ça continue un petit peu avec la fille qui prend ses valises,
et
là, on est dans les années 60, fin des années 60, donc ça va être la Californie, les hippies à fond les manettes, tout très psychédélique, on va dire. Hein.
Ouais.
Mais quand même très très grave. De toutes les histoires, c'est quand même cette histoire qui est à mon avis la plus sordide pour l'instant, quoi, la plus glauque.
Ouais,
hein,
c'est quand même.
Ouais.
Hein, quand même, quoi. Et pour le hibou, c'est aussi assez intéressant parce que Rorschach, il apparaît un petit peu plus. Hein, c'est l'alter ego, on va dire. Hein, c'est le partenaire du hibou, le hibou seconde génération. Pas celui des Minutemen, mais on en apprend pas mal sur Rorschach, et là c'est vraiment très très intéressant.
Bon, je ne dirai pas plus parce que sinon... c'est aussi, par définition, le plus humain, le plus sympathique, le nouveau hibou, en fait. C'est celui qui est le plus proche du lecteur, on va dire, parce que c'est quand même...
ça va peut-être changer à la lecture du 2, avec un espèce de cliffhanger final qui dit... Ah bon? Ah bon?
D'accord.
D'accord. Bon, bah voilà, ça c'est Before Watchmen. Donc, hein, c'est en vente dans tous les. C'est en vente qu'en kiosque. Et alors, j'avais essayé de me renseigner. Je crois que Urban Comics ne fait pas de politique d'abonnement. C'est-à-dire, tu peux pas t'abonner aux différents Urban Comics, les Batman, les Watchmen et tout. Tu es obligé d'aller dans les kiosques pour les acheter. Hein, c'est pas comme Panini qui à l'époque, eh bien, tu pouvais avoir ton abonnement à Spider-Man, à Marvel, enfin tous les trucs. Là, c'est, je crois qu'il n'y a pas de truc d'abonnement. J'ai cherché un petit peu sur le net. Cherches dans les magazines, il n'y a pas de truc d'abonnement. Il n'y a que dalle, quoi. Et même sur le net, tu regardes sur le site, ils ne proposent pas de truc d'abonnement non plus, quoi.
Oh, donc, j'avais déjà posé.
C'est en kiosque.
J'avais déjà posé la question. C'était à propos des éditions Kana, justement, à propos des mangas et tout ça. Ouais. S'ils comptaient passer justement aussi à une parution en abonnement. Puisque c'est le même groupe, hein, c'est Média Participation, donc Dupuis, Dargo, Black et Mortimer Edition et tout le reste. Ils ont dit c'est pas trop dans l'intérêt du groupe. Ah.
Alors par contre, c'est le numéro 2A, puisqu'ils disent, les équipes éditoriales disent que Rorschach aura aussi sa propre série.
Tout à fait, oui,
oui.
Ça devrait arriver le mois prochain ou dans deux mois, quoi.
Parce qu'il y a Manhattan qui n'a pas sa série encore, il y a qui manque encore, hein. Manhattan, Rorschach, il y a... ouais, c'est un peu dur de trouver ça comme ça, sans préparation, mais...
bah, Spectre Soyeux... Donc,
non, si, Spectre Soyeux,
Spectre
déjà.
Spectre Soyeux, il y a, sinon tous les autres...
Il doit y avoir d'autres personnages, des Minutemen, qui n'y sont pas, par contre. Bon, voilà. Ah, par contre, ah oui, j'avais une question. Puisqu'on voit dans la première réunion des Watchmen, des Minutemen, donc Manhattan, en fait, est habillé. Par contre... Alors, est-ce que c'est justement cette censure aux États-Unis que nous avions eu la version non censurée ?
Non, c'est au début, la première rencontre, il est habillé parce qu'il est accompagné de militaires, donc ils le mettent, le mettent entre guillemets civil, quoi.
D'accord, c'est marrant d'ailleurs cette première rencontre, puisque justement on voit aussi le comédien qui fait son entrée et qui fout le feu à la bibliothèque et puis
pas à la bibliothèque, à la carte.
Oui, à la carte, et l'autre il dit, ah, c'est ta première rencontre avec le comédien. Ben ouais.
Ah, il y a un truc que j'avais pas signalé la dernière fois lors de la parution donc du premier Watchmen du numéro 1, c'est que dans le Watchmen original, la traduction française est faite par Jean-Patrick Manchette.
Oui.
Or,
ah oui,
dans celui-là, eh bien, elle est faite par Doug Edline, qui n'est autre que
son fils,
le fils de Jean-Patrick Manchette,
le réalisateur lui-même.
Sachant qu'ils ont remis la traduction de Jean-Patrick Manchette, puisque lors de la sortie du film, il y a eu plusieurs éditions qui sont arrivées chez Panini, et ça n'a pas été la traduction originale, alors que la veuve avait été prête à renoncer. Elle a dit, je renonce au droit pour qu'il y ait ce texte absolument superbe. Elle trouvait que l'autre traduction, Massacré, c'est vrai que était pas tip-top.
Dans la dernière édition Watchmen qui est sortie, là, qui vient de sortir, à 35€, c'est le texte de Manchette. Hein.
Oui, tout à fait. Thomas, vous écoutez FMR 89.1 MHz, Super Weekend numéro 344. Qu'est-ce qu'il y a en sortie? Je ne sais pas quelle est l'ambiance exactement qu'il faut mettre dans First Wave The Spirit.
Oh bah, The Spirit, tu sais, c'est de l'ambiance polar avec un petit.
Ah mince, c'est ce Spirit là, je savais pas.
Si tu suivais l'historique de mes chroniques, c'est la remise au bout du jour de The Spirit et Doc Savage, et voilà, du vintage, du pulp. Heroes.
Voilà.
Alors on reste dans le comics avec le héros de Will Eisner qui continue ses nouvelles aventures avec toujours au scénario David Hein et au dessin Moritat qui est un pseudo. Donc David Hein avait déjà écrit l'une des histoires du précédent tome, donc là il s'occupe de toutes les histoires, il y en a trois. Alors la première, ça reprend un peu le même schéma que le premier tome, puisque la première histoire se veut un peu plus glamour, un peu plus sexy, puisque le spirit enquête sur une veuve qui est aussi héritière d'un empire mafieux et qui avait épousé un tocard qui s'appelait Jimmy Bauhaus. Mais la veuve éplorée est un peu trop éplorée au goût du spirit, ça cache des trucs. Quand la veuve éplorée Ah, cette silhouette-là. On se dit que c'est vraiment du gâchis. Oh. On se dit que quand il commence à pleuvoir...
Elle ne va pas rester pleurer longtemps.
Quand il commence à pleuvoir, elle n'a pas forcément de par-dessus. Et que là, les robes sont tout à fait mises en valeur. Qu'elle, oui, qu'elle dit, oh, mais je n'aime pas attirer l'attention dans des positions tout à fait suggestives. Et quand on sait que le spirit, ben en fait, il peut être pas...
C'est un gentleman.
En même temps, il peut pas vraiment résister à des filles comme ça. Donc une première histoire, franchement, qui fait plaisir aux yeux, qui est plutôt légère. Et puis, on voit que le dessinateur s'est fait vraiment plaisir. Et puis, en plus, un retournement de situation finale où on voit que le spirit, faut pas lui faire non plus. Et puis, que c'est quand même lui qui mène la danse sur certaines intrigues, même s'il se laisse au premier abord attendrir. Deuxième histoire, alors ça c'est un exercice de style beaucoup plus concis que les autres, mais par contre c'est l'un des plus intéressants puisque c'est une plongée dans l'esprit d'un tocard qui vient de commettre un meurtre et qui est atteint d'une crise de paranoïa parce que la nana qui l'a tué, c'est une receleuse, elle lui a dit « fais gaffe à l'esprit de la vengeance ». Et il est persuadé que le spirit va lui mettre la main dessus et le pourchasser. Et donc, évidemment, quand tu essaies de fuir le spirit alors que rien ne te soupçonne, eh ben, forcément, t'attires l'attention sur toi. Alors, c'est une plongée dans la paranoïa, dans la tête d'un gars. Et alors, c'est très rigolo puisque c'est sur un format de page assez court. Mais c'est vraiment un exercice de style en termes de découpage. C'est vraiment très, très bien. Et la dernière histoire, ça suit le même schéma que le premier tome, c'est que c'est plus glauque. Parce qu'il est question de trafic d'êtres humains, bon voilà, il y a un nouveau mafieux qui essaie de faire son trou dans Central City, la police est obligée de coopérer avec les gangs d'Octopus pour essayer, parce que quand même les gangs d'Octopus, ils avaient quand même un code de conduite que n'a pas du tout le nouveau gang. Et alors, ce qui au départ est une histoire assez glauque, une guerre des gangs, vire après vers... un concept de science-fiction qui est vraiment intéressant. Alors je vous dis pas du tout de quoi il s'agit, mais tu te dis à un moment donné quand ça prend une autre tournure, ah ouais, je le sentais pas venir. Et ouais, tu prends du plaisir à lire cette petite série. Ça casse pas forcément des briques, mais c'est classieux, c'est dans l'esprit des vieux pulp. Et puis voilà, ça remplit son office. Par contre, ce qui est pas du tout, enfin moi, j'ai essayé, tu me diras, je t'ai passé le tome sans en parler à l'antenne, tu me diras ce que tu penses de Doc Savage, puisqu'il y a deux séries en parallèle.
Moi j'ai bien aimé le premier tome. Hein,
moi j'ai pas aimé le premier tome, et le
c'est
deux...
dans l'état d'esprit, enfin bon, c'est ça quoi.
Il y a des trucs que je comprends pas du tout, pas l'essence des ellipses, je comprends rien ce qui se passe. Les personnages sont toujours dessinés de la même façon, je les confonds tout le temps, je comprends pas, donc je te le passe, tu me diras, tu le chroniqueras si ça t'intéresse, et puis voilà. Je vais pas non... okay. On a le droit de passer à côté aussi, donc je vais pas en faire des tonnes non plus. Donc voilà, Doc Savage, sachez qu'il y a aussi un tome 2 de la série First Wave qui a été orchestré par Brian Azzarello, et d'ailleurs c'est Azzarello qui est au scénario de ce tome 2 des aventures de Doc Savage. Voilà, donc le combo de chronique des deux séries parallèles de la saga First Wave, et c'est chez Ankama dans la collection Pulp Heroes.
De mon côté, moi, je vous emmène dans un tout autre monde beaucoup plus contemporain. Yusuke Ochai pour donc une série en 3 tomes qui s'appelle L'île infernale. Le premier tome est donc sorti aux éditions Comico. Et on est dans un monde contemporain qui s'est aggravé. Je vais dire qu'on est dans un monde ravagé par la crise où les grands États occidentaux sont... sont obligés de renoncer à certains de leurs prérogatives. Et dans ce contexte de grande morosité, l'histoire raconte que le Japon abandonne la peine de mort. Oui, je rappelle quand même qu'au Japon, on pend encore.
Ah, c'est par pendaison carrément ?
C'est par pendaison, oui.
D'accord.
et transforme, en fait, le Japon. Ok, bon, oui, c'est pas trop dans les droits de l'homme et parfois il y a les innocents. Bon, voilà, on abandonne la peine de mort, mais en contrepartie, comme ils savent pas quoi en faire de tous ces prisonniers ultra-violents, ils transforment une île en univers carcéral. À perpétuité, on met ces condamnés ultra-dangereux.
Alcatraz.
Ouais, bon. Sauf que sur cette île, il n'y a plus aucune règle. Après leur jugement, on débarque les prisonniers et puis, bon, ciao, bye bye, hein, démerdez-vous, vous avez des congénères pour vous amuser. Je te laisse imaginer l'ambiance. Sur cette île, donc, nous allons suivre un homme déterminé, un ancien reporter de guerre qui a déjà vu des atrocités. Il a été envoyé sur cette île après avoir commis un massacre. Ça, on s'en doute, c'est pas en reportage, en tout cas, qui y va. Et pourquoi ? Dans l'unique but d'y retrouver un homme. Ou plutôt, un monstre, comme nous le devinons assez vite. Sauf que, une île éloignée de tout, en plein milieu de l'océan Pacifique, où des assassins multirécidivistes y font leur loi... à côté, les guerres civiles sont peut-être horribles, surtout à cause de la présence des civils, mais les femmes, les enfants et les vieux, ben, ça permet parfois de retenir le bras armé des combattants. Ben là, même pas, c'est l'enfer sur Terre. Évidemment, on est très éloigné du bagne de Cayenne. Dans cette histoire, il n'y a pas de maton, tous les exilés sont coupables. C'est justement ça qui me gêne. Aucune mesure sur les probables erreurs. Le livre commence donc sur l'horreur des condamnés forcément coupables. Mais dans une prison, c'est très rare qu'on ait aucun innocent, aucune erreur judiciaire. Or, le problème, c'est que une partie des prisonniers sont donc un peu traités, je veux dire, un peu comme... on dirait des corps sortis de la Shoah. Enfin, voilà, quoi. Mais t'arrives pas à avoir d'empathie dessus, du coup.
Ah.
Peut-être que j'anticipe trop sur la suite de la série, je ne sais pas. En tout cas, son dessin, lui, est impeccable, dynamique, rend bien compte, en fait, je veux dire, de l'esprit qu'ils veulent donner à cette jungle délabrée. Je vous laisse juge de cette série. L'île infernale, tome 1 sur 3 de Yusuke Ochiai, c'est aux éditions Komiku. C'est assez noir, hein, quand même. Hein.
Ouais, c'est noir, et puis il y a beaucoup d'encre noire aussi utilisée dedans. On voit que le... Ouais. C'est pas du clamp. Hein.
Ça va être très 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 dur de faire une transition là beaucoup plus sympathique et calme et tout le reste. Hein. Un jeu en chier quoi. Et d'ailleurs, n'hésitez pas, hein, si vous voulez dire ce que vous pensez de l'émission, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, notamment The Petit Zozoyo de 7 ans, puisque là-dessus, en tout cas, on a les réactions réellement en direct. Et sur Face de Livre, ça marche bien aussi.
Oui, si vous voulez nous répondre sur ces réseaux, vous pourrez passer peut-être en direct, enfin c'est nous qui allons retranscrire vos textes dans le courrier des auditeurs si vos commentaires sont suffisamment pertinents ou si ça nous amuse, donc n'hésitez pas.
Ouais, en tout cas, quand Morgane reviendra. Donc une toute autre ambiance, beaucoup plus sympathique et mignonne et tout ça. Alors alors d'habitude, c'est vrai, j'ai une chose à dire. C'est vrai qu'en général, c'est vrai que les livres... Bien souvent, je les reçois, j'en achète aussi, hein, afin d'équilibrer quand même. Et quand je reçois un tome 2, je me débrouille pour lire le premier tome, afin d'être bien plongé dans l'histoire. Voilà, faute de temps, mais aussi amusé par l'idée, en fait, du début du deuxième tome, bah, je ne l'ai pas fait, donc je vais chroniquer le livre tel que je l'ai lu. Franck Vialet, Sylvain d'Orange, Les Promeneurs du Temps, le deuxième tome s'appelle L'Arcane sans nom, c'est aux éditions Poivre & Sel. Et on suit en fait le commissaire Ambroise Clé, l'un des plus fins limiers du Quai des Orfèvres. Rigoureux, sceptique, y croit en la science triomphante. Alors que Paris vient tout juste de passer au XXe siècle et la reine de l'an 1900. Mais un jour, alors qu'il fait sa promenade matinale sur les quais de Seine, un objet tombe de très haut, embrase un arbre et l'interpelle par son nom. Ah bon ? L'individu, qui porte une drôle de tenue, lui dit qu'il est un paradoxe temporel incarné. L'individu, là, qui tombe de l'arbre, hein, pas le Ambroise Clé. Je me suis trompé, c'est pas très bien écrit. Ok, je le reconnais. En tout cas, l'individu s'appelle Adelme, et il revient de l'an 2075 dont il est originaire.
C'est le visiteur du futur.
Mais il était déjà venu en 1900, et avait déjà rencontré le commissaire Clé, et surtout son aïeul, le docteur Schweitzer, afin d'arrêter un meurtrier voyageur du temps. Je reviendrai aux visiteurs du futur tout à l'heure, t'inquiète.
Ah oui, je me disais aussi.
Seulement, le temps n'aime pas trop qu'on s'amuse avec lui. À son retour, Adelme n'existe plus. Personne ne se souvient de lui. Il est donc revenu dans le passé, sollicitant l'incroyable esprit d'analyse du commissaire Clé pour résoudre ce paradoxe temporel et avoir à nouveau sa place dans le futur de passé qu'ils ont... Enfin bon... Et c'est parti pour une épopée guidée par des esprits jusqu'en Arménie, alors que nos héros sont discrètement suivis par une très mystérieuse société secrète. Graphiquement, moi j'aime bien ce style de couleur, ce trait naïf, quasi naïf en tout cas. Moi ça me plaît vraiment, et en plus, et ben voilà quoi, le ton et laisse vraiment une place à l'onirisme, c'est extrêmement agréable. Et on se laisse vraiment porter par l'histoire. D'ailleurs, en fait, les personnages me font beaucoup penser, époque oblige, à Adèle Blanc-Sec. Et à mon avis, une bonne partie semble être une caricature. À mon sens, je pense que Jacques Tardy n'aurait pas dû laisser Luc Besson faire une adaptation pour Rave. Ça a donné envie à tous les autres de le parodier. Eh oui, forcément. Franck Vialet, Sylvain d'Orange et Promeneur du Temps, le tome 2 s'appelle L'Arcane sans nom, c'est aux éditions Poivre et Sel. Un bon moment, accessible à tous, et je pense que ce serait mieux si vous commencez par le premier tome, contrairement à moi. Et le Visiteur du Futur est ce soir à Toulouse.
Ah, ben voilà.
Voilà.
Bel enchaînement.
Voilà, t'étais obligé. Mais c'est pour ça qu'il n'est pas là, parce qu'il pionce le petit. Il pionce notre community manager pour pouvoir être en forme pour ce soir. Pour cet enfoiré, il va voir la fin de la saison avant moi. Il n'a pas intérêt à la ramener, non, quand il va revenir. Ça va chier. Puisque du sport qui devait chroniquer moi, Zlatan Ibrahimovic, n'est pas revenu à temps, eh ben, je vais vous lire la première phrase en fait, du livre, comme ça. Hein, je ne sais pas, je découvre en même temps que vous. Vous savez que je ne connais absolument rien à ce livre. Pedro Guiadola, l'entraîneur de Barcelone, se Zlatan vers moi dans son costume gris, l'air préoccupé, un bras embarrassé. En ce temps-là, je Zlatanais qu'il était réglo, pas vraiment le style de Mourinho ou Capello, mais un type Zlatan mon bien. C'était avant que nous Zlatanions à avoir de sérieux désaccords tous les deux. Voilà.
Il a dit Pedro Guiadola.
Ouais,
bah, je suis handicapé. Ah.
Pedro Guiadola, attends, je vais. Attends,
Pepe.
Pep Guardiola.
Pepe
Guardiola.
T'essaieras de lire un bouquin pendant que du sport essaie de te le reprendre, tu vois, c'est pas évident. Hein, c'est
bah attends, ouais, quand même quoi.
Pedro.
Alors.
Bande d'enfoirés.
Allez, fais-nous rêver.
On avait dit pas de sport dans le supplément week-end.
Oh non, c'est que toi qui as dit ça. Hein.
Non, c'est de la littérature.
Ouais.
Allons-y.
Alors, je vais vous dire tout de suite, Franco de Port, j'ai eu beaucoup de mal à lire ce bouquin.
Le style, le contenu, le vide, l'absence d'intérêt.
On va dire le style, quoi. Bon, il n'y a pas vraiment de style. Parce qu'en fait, c'est simplement le journaliste David Lagerkrantz qui a dû recueillir les propos de Zlatan. Et connaissant un peu Zlatan, tu comprends que le type, il a dû lui donner quelques indications, quelques routes, quelques chemins, quelques guides comme ça pour développer son truc. Mais qu'il n'a pas eu besoin de faire grand-chose, à mon avis. Et que donc, c'est une biographie, presque chronologique, parce que, comme l'a si bien fait remarquer, et l'a fait si bien découvrir Xavier, le premier chapitre concerne la relation de Zlatan avec Pep Guardiola. Et tu comprends tout de suite
que en fait, c'est un règlement de compte.
C'est un règlement de compte, ouais. Que pour Zlatan, c'est vraiment n'importe quoi.
Enfin, ceux qui connaissent le foot savent que c'est son seul échec pour l'instant. Donc il commence par l'échec, il dit c'est pas ma faute.
Alors il dit pas que c'est un échec, parce qu'en fait, quand tu regardes les statistiques, les chiffres de ses années à Barcelone, tu dis. De son année à Barcelone, tu dis putain, c'est tout à fait respectable. Le mec a marqué 16 buts en une année. Bon, il n'y a pas grand monde qui marque 16 buts en une année dans un championnat, dans un des grands championnats européens. Hein, c'est tu regardes les différents championnats de province. Ok, déjà. Alors ensuite, on a droit à la vie de Zlatan racontée depuis son début. Alors sa vie, on la connaît un petit peu. Hein, c'est une enfance dans un quartier déshérité du côté de Malmö. en Suède. Entouré d'immigrés de toutes sortes, hein, surtout beaucoup d'immigrés suite à la guerre des Balkans, donc mélange, hein, des Croates, des Serbes, des Kosovars, des machins, des trucs, mais pas que, il y a des Turcs également.
Ah, c'est comme ça qu'il a eu son nom serbe. Hein.
Non, mais son père est croate et sa mère était serbe, me semble-t-il, ouais. Enfin un truc comme ça. Ouais. Enfin bon, bah, déjà au départ, hein, mais disons avant qu'il soit obligé de partir. Et donc, bon, bah, lui, il a qu'une obsession. De toute façon, c'est le foot. Il découvre un petit peu le foot. Donc, voilà, ça devient pratiquement son obsession. Et tu comprends que, bon, bah, très tôt, il se dit, bon, bah, ok, c'est une bonne façon de réussir. Il n'y a pas de problème et tout. Mais au départ, lui, il voit pas ça en tant que gamin. Il voit pas ça en tant que, bon, bah, je vais pouvoir avoir des belles bagnoles. Je vais pouvoir me taper des putes, des trucs comme ça. Enfin, bon, la caricature de ce qu'est le footballeur.
Non, taper
la
des
star
putes.
De foot moderne actuel.
Non. Taper pas les putes, c'est le hip-hop d'habitude. Hein,
ouais, mais ils sont tous potes avec des rappeurs. Enfin, avec des rappeurs. Bon, Rof, Booba, ouais, c'est des rappeurs. Pareil, quoi. Alors.
Je sais que t'es pour le mariage pour tous, mais quand même.
Ouais, ouais, non. Alors, bon, c'est pas trop mal. Bon, tu comprends, de toute façon, à raconter, parce que, en plus, il raconte les choses vraiment franco de port, c'est-à-dire, il cache rien. Et de ce côté-là, bon, on peut se dire que c'est pas mal. Que du côté familial, le cocon familial, lui, il l'a jamais connu. Il sait pas ce que c'est. Ils avaient la particularité, en plus, de déménager chaque année. Donc, il avait pas la possibilité de se faire des potes en classe, vu qu'il changeait d'école chaque année. Mais pas, il changeait pas de ville, hein, il changeait de quartier, il déménageait un petit peu, ou il changeait simplement de rue, il allait une rue plus loin, enfin un truc comme ça. Mais chaque année c'était régulier et tout. Le père était séparé de la mère, lui il a eu des relations avec son père, il a commencé à avoir des relations avec son père qu'à partir de son adolescence, à partir de 10-11 ans avant. Bon, mais son père
n'était pas
là.
Pas, ouais.
Son père n'était pas là, voulait rien savoir d'eux. C'est la mère qui s'occupait de tout le monde. T'apprends également quelle est la fratrie, c'est-à-dire son frère, ses sœurs, dont une sœur, la mère, il se cause plus. Enfin bon, il y a des histoires comme ça dans la famille. Déjà, tu te dis bon, ouais, cool, bonne ambiance, c'est pas mal. Et lui, donc, s'évade dans le foot. Et bon, bah, ça lui réussit pas trop mal, on va dire. Et il y a aussi une caractéristique, à un moment où il est déjà bien intégré dans le foot, c'est une grosse poussée de croissance qu'il a à l'âge de 12-13 ans, où il prend 30 cm d'un seul coup.
Ce n'est rien, ce n'est pas grave, ton corps change.
Genre, l'espace de 2-3 mois, tu viens de là, t'as 30 cm en plus et tout, bon...
De 30 cm okay. Pofi.
Ouais, 30 cm quoi, tranquille. Quoi.
On parle de la taille de globale. Hein.
La taille...
Ah non, moi je...
Bref. Et après, bah, il nous raconte ce que lui voit, c'est-à-dire en tant que footballeur, eh bien, la découverte du sport professionnel quand il est intégré dans l'équipe de Malmö, sa revente
à
l'Ajax d'Amsterdam, puis la revente à Juventus qui va le revendre après
à l'Inter
qui va le vendre à Barcelone, qui va le revendre
à Milan.
Ouais. Tout ça est très très bien décrit, sauf que bon bah au départ lui bon bah il connaît rien et tout, et c'est ça qui est pas mal. C'est le seul truc qui est peut-être un petit peu sympa dans le bouquin, c'est que avec sa naïveté de jeune adolescent, bon bah il se fait avoir, des trucs comme ça, bon bah il se forge une carapace. C'est cette carapace qu'on ressent quand on le voit jouer, ou quand on écoute les différents faits divers concernant Zlatan. Ses bastons à l'entraînement, il en parle, hein, il parle de ses différentes bastons, il parle de ses accidents de bagnole, il parle de son péché mignon aussi, les bagnoles, et donc du fait d'essayer avec ses Ferrari de pouvoir semer les flics qu'il prenne en chasse en Suède quand il a plus de 300 à l'heure, enfin bon, des trucs comme ça, voilà. Bien qu'il dise qu'à la fin du bouquin qu'il soit un peu calmé depuis qu'il est marié avec des enfants. Bon,
avec une nana qui a 11 ans de plus que lui. Hein,
avec une nana qui a 11 ans de plus que lui.
Il a peur d'être accompagné à la frontière par Emmanuel Valls.
Non, mais il raconte très très bien leur rencontre, tout ça, et il dit bon bah ok, il a même pas eu le coup de foudre au départ, enfin c'est vachement rigolo. Il est vachement premier degré, pur comme ça, c'est-à-dire bon bah ok, je te dis tout franco de trucs, mais par contre tu déconnes pas avec Zlatan. Ça, c'est présent tout le temps, quoi. C'est-à-dire du début jusqu'à la fin. Il a cette espèce d'autorité naturelle, cette espèce de carapace.
De Zlatan.
Ouais, qui fait que, bon, bah, même quand il était jeune, quand il était plus jeune, quand il était ado, il était pas, c'était pas le plus grand, il faisait pas une tête de plus que tout le monde. Il a eu son lot de roost parce que, bon, bah, ok, il était tout seul contre 4, des trucs comme ça. Bon, la vie d'un jeune gamin dans un quartier, on va dire pratiquement, bon, c'est un petit peu malheureux, mais c'est comme ça. Mais par contre, bon, au niveau du foot, c'est pas mal, c'est assez intéressant parce que pour les gens qui aiment bien le foot, il n'y a pas de problème. Il y a quelques trucs qu'on apprend et tout. Son obsession de Ronaldo, son idole absolue, il dissèque pendant des heures et des heures la nuit sur son ordinateur toutes les vidéos sur YouTube de Ronaldo pour apprendre à refaire ce que fait Ronaldo et tout. Enfin bon,
À l'attention de ceux qui savent pas, c'est le Ronaldo, il n'a qu'un, le vrai, c'est Ronaldo, le brésilien d'Alima, c'est
voilà,
pas Cristiano, pas Ronaldinho.
Non, le Ronaldo, quoi.
C'est le Ronaldo.
Oui, bien sûr. Bien sûr. Il y a aussi et ça m'a un petit peu
Là, ça va Xavier, t'es pas trop seul là, tu t'endors pas trop.
Il y a aussi
non j'ai les pubs qui sont prêtes là.
Il y a aussi ce qui m'a plu dans le bouquin, c'est la description d'action, de but, même très lointaine. C'est-à-dire que là dans ce bouquin il se rappelle certains buts qui ont été vachement importants à un moment donné pour l'équipe, pour lui-même, pour le championnat, mais ça peut remonter à un match en équipe junior, comme un match avec l'Inter de Milan, un match avec la Juve, un match avec le Barça, où chaque fois, bon, ben, c'est son but à 89e, dans des situations incroyables. Bon, il y a beaucoup de buts qu'on connaît de lui, qu'on a vus à la télé, qui ont été youtubisés, hein, que vous pouvez voir, et qui sont, bon, bah, ok.
Gars qui s'est joué, ouais.
Ouais, le mec s'est joué, puis en plus, bon, bah, il a des fois le petit coup de chance, le petit truc où tu te dis, bon, bah, ok, il n'y a pas de problème. Lui, il appelle ça un petit peu l'instinct, le truc qui vient en une fraction de seconde, tu dis paf et puis c'est bon, quoi.
Alors moi j'ai une question par rapport à ce livre. Si tu as lu le méga dossier numéro spécial de SoFoot consacré à Zlatan, où ils se servent de passages de ce livre là pour étayer leur dossier, qui raconte ce que les gens disent de Zlatan sur son caractère, les entraîneurs qui racontent aussi comment ils ont su le gérer ou pas, est-ce que quand tu as lu ce dossier là est-ce que c'est utile de voir le bouquin ou est-ce que c'est de la redite?
Ouais, c'est un petit peu plus complet, quoi, je veux dire. Et si tu veux, bon, ben, dans le dossier de SoFoot, eh bien, SoFoot prend beaucoup les avis extérieurs qui sont cités dans ce bouquin, alors que là, bien, c'est vraiment Zlatan qui parle. C'est l'avis de Zlatan par rapport à toutes les situations de sa vie. Donc, ok, après, tu peux avoir des avis différents. Il y a, certainement pas mal de choses qui sont pas très nettes, je veux dire, parce que il y a des moments il s'est arrêté de jouer pour l'équipe nationale, il a dit bon vous me faites chier, j'en ai marre, parce qu'il était pas d'accord avec le sélectionneur, ça change le sélectionneur, ok, il se dit je reviens, enfin bon, des trucs comme ça, il raconte tout. Et puis bon, alors après, le type mis en question bien sûr ne va pas raconter la même chose. Quand Zlatan dans le bouquin plusieurs fois, d'ailleurs il y a une photo, hein, ça commence par une série de photos assez rigolotes, assez sympas, dont une avec Mulji. Donc le mec de la Juventus, hein,
Le Mojopoli.
D'accord. Et bon, pour lui, Moji est un type tout à fait respectable, il n'y a pas de problème. Enfin bon, et le bouquin a été écrit a posteriori après le Mojopoli. Alors bon, il en parle juste pour dire oui, bon, il y a eu ça, mais enfin bon, il n'était pas d'accord. Il raconte aussi, bon, bah, son entrevue avec Deschamps quand il est à la Juventus, que la Juventus gagne le championnat, se fait retirer son titre parce qu'il y a ce fameux Mojopoli et que l'équipe est rétrogradée en division série 2, hein, c'est-à-dire en division 2, et que bon, bah, il demande aux stars de rester. Deschamps qui dit à Ibrahimovic, bon, bah, tu restes parce que je construis l'équipe autour de toi. Et puis le type, il dit, ouais, bah, c'est ça, appelle un taxi. Si tu restes pas, je pars aussi. Deschamps qui lui dit, et puis Ibrahimovic, il lui dit, bah, va chercher, commande le taxi, on y va tous les deux, on part. Bon, t'as quelques petits trucs comme ça qui sont vraiment sympas. Bon, ça se lit quand même lire, mais bon, moi je dirais que c'est quand même un peu chiant à lire, quoi.
D'accord. Bon.
Comme un match de foot.
Au niveau rythme de lecture et tout ça, quoi. C'est un petit peu dommage, mais ça le fait quand même, hein, de toute façon. Alors, je voulais également parler un petit peu du journaliste David Lagercrantz.
Parce qu'il y a Sushi qui est en train d'arriver, notre spécialiste sport avec toi, et elle pourra nous dire ce qui. De voir le livre après.
Moi je me casse.
C'est un type qui est journaliste et puis qui a commencé à écrire son premier bouquin qui s'appelle My Everest Odyssey. un livre sur un alpiniste suédois qui s'appelle Göran Krupp, qui est devenu un best-seller international. Et après, eh bien, il a écrit un bouquin, un roman, inspiré de la vie du pionnier de l'informatique, Alan Turing. Voilà, donc Zlatan, donc, s'en vend dans toutes les bonnes crèmeries. À la limite, attendez qu'il soit à la bibliothèque, et puis comme ça, vous l'empruntez gratos. C'est peut-être mieux, quoi.
Je suis juste mort de rire parce que Sushi se dit, mais pourquoi le micro n'arrête pas de bouger? Si tu enlèves le casque qui est sur le pied...
Non, mais ça bouge sur un axe Z, si tu maîtrises aussi la 3D, bon. L'axe vertical.
Bon, je vois. Les références d'us.
Moi, Zlatan. Ibrahimovic.
C'est marrant
chez Jean-Claude Lattès.
C'est marrant parce que chaque fois qu'on prononce Zlatan, on est obligé de le faire. Zlatan.
Zlatan. Tout à l'heure, donc, Sushi et du Sport reçoivent l'équipe de France de foot en Australie.
Non, pas l'équipe de foot. Non, mais il raconte n'importe quoi. Laisse.
C'est les Australiens.
Tu peux au moins lui mettre le micro.
Oui, pardon, j'avais pas vu qu'elle allait changer de couleur.
Non, alors, c'est pas l'équipe de France de football australien. C'est un des joueurs qui, effectivement, est sélectionné en équipe de France. De foot australien, mais il joue donc à Toulouse, qui a une équipe qui s'appelle les Toulouse Hawks, et il viendra avec deux de ses compagnons.
Voilà. Bref, on n'est pas sorti de l'auberge. Radio FMR 89.1 MHz, on a toujours pas compris.
Encore...
12h48 minutes de suite.
Et encore, t'as de la chance parce que une équipe de foot australien, c'est 18 joueurs. Tu vois, c'est encore mieux qu'une équipe de rugby.
Oui, mais on pourra jamais faire plus qu'une équipe de foot américain. C'est encore plus, non?
Oui, non,
sur le terrain. Sur le terrain.
Ah oui. Donc c'est beaucoup.
Il y en a moins en foot américain.
Ah oui.
Bon, c'est un autre débat.
Pour publicité, là j'en ai marre.
L'Institut supérieur des arts de Toulouse, en partenariat avec Radio Éphémère, présente les journées portes ouvertes des Beaux-Arts du vendredi 22 au dimanche 24 mars. Au programme, seront présentés des travaux d'étudiants réalisés au cours de workshop, des conférences d'intervenants extérieurs, ainsi que des concerts du département musique et danse de l'ISDAT.
En parallèle, l'Association des étudiants des Beaux-Arts, en partenariat avec Radio Éphémère et le Saint-Dessin, organise un festival qui se déroulera également du vendredi 22 au dimanche 24 mars. Le vendredi soir, l'ouverture se fera au Saint-Dessin avec un concert gratuit dès 19h. Au programme THX1137, un projet techno-bidouille suivi d'un DJ set. Les concerts du samedi se dérouleront aux Beaux-Arts à partir de 20h30 pour 3€ avec Semi-Playback, Clot, Jessica 93, trois super groupes du label Et mon cul c'est du tofu, Yvan Pinson, pianiste XP et SP, et Coalt, projet dub expérimental.
Le festival se clôturera le dimanche en apothéose au Saint-Dessin à partir de 20h avec Space Padlocks, Garage Psyché de Toulouse, Black Bug, Synthé Punk de Suède et Violence Conjugale pour leur toute première fois à Toulouse, French Cold Wave de chez Born Bad Records pour 5€.
Plus d'informations sur le site de l'ISDAT au www.isdat.eu et sur le site de Radio FMR au www.radio-fmr.net.
Hey, tu viens à la 16e édition de Traverse Vidéo du 13 au 29 mars ?
Histoire S !
Une programmation de vidéos expérimentales, des installations, des expositions, des performances. Partout dans Toulouse et gratuitement, au lycée des Arènes, Cinémathèque, Musée des Abattoirs, Chapelle des Carmélites, Goethe Institut, UGC, Hostal Occitania, Epitech et SAF, Centre culturel Bellegarde. Du 13 au 29 mars, www.traverse-video.org.
Histoire S !
Ceci est un message de propagande à l'attention de toi, public auditeur.
Trois raisons présentes.
La semaine du rock!
Durant une semaine, du 25 au 31 mars, le Rock Invest Toulouse dans 8 salles différentes avec 25 groupes locaux. Retrouve toutes les infos sur Facebook, la semaine du rock officielle.
I'm Barack Obama and I approve this message.
Le Festival Indélébile, c'est le 6 et 7 avril. À la chapelle.
Les petits canards, c'est le festival Indélébile qui revient. C'est la mare aux images, c'est du 6 au 7 avril à Toulouse, à la chapelle. Avec un parcours d'exposition dans toute la ville, les petits canards, dans des cinémas, dans des librairies, dans des bars, même dans des sex shops. Le vendredi 5 avril, grand apéro d'ouverture, avec monsieur le directeur en concert à la chapelle.
Le samedi 6 avril au soir, venez dîner avec nous au Moloko, DJ No Breakfast et tous ses amis, les petits canards. Et n'oubliez pas, le dimanche 7 avril, à partir de 15h, un grand loto avec plein de lots à gagner. Le Festival Indélébile, c'est la mare aux belles images. Et si vous n'avez pas de mémoire, les petits canards, retrouvez tout le programme sur notre site indélébile.org. À bientôt, les petits canards!
En partenariat avec Radio Éphémère.
Éphémère. Et d'ailleurs, Radio Éphémère sera à nouveau en direct à partir de 15h, donc de l'école des Beaux-Arts pour la journée Portes Ouvertes. Truc rien à voir, mais puisque on l'avait noté, on l'a retweeté sur les réseaux sociaux, et qu'on va pas parler de cinéma cette semaine, un excellent article dans un blog que j'ai découvert ce matin qui s'appelle « Le cinéma et politique, Skyfall ». Pour que Bond rebande, où en fait, Bond est analysé et critiqué comme étant un manifeste purement machiste. C'est pas mal, c'est intéressant.
C'est quoi le manifeste ? C'est Skyfall ou toute la série ?
Skyfall.
D'accord.
Précisément, c'est-à-dire le rôle de Eve, Money Penny, avec... Attends, parce qu'en plus, il y a les captures d'écran qui est géniale. Elle a beau s'appliquer, elle a du mal la conduite. C'est pas leur truc aux femmes. Du coup, le phallus prend les choses en main, puisqu'on n'est pas là pour faire du tourisme. Et hop, une main, je tiens mon volant poupée. Plus besoin de regarder la route maintenant, mais juste admirer le phallus en action. Et bim, voilà ce que c'est que tourner le volant, petite. Et
ouais, en fait, ça fonctionne plus avec les images. Hein. Ouais, effectivement.
C'est étonnant. L'article, en plus, est extrêmement intéressant. Il est assez long. C'est une très bonne analyse, finalement, du film. On le redécouvre d'une manière totalement différente. Et on voit les autres titres des autres chroniques. C'est pas moins inintéressant.
Mais en plus, Skyfall, avec ce méchant homosexuel, le rôle de M qui est castratrice.
C'est ça, c'est exactement ça. C'est M disparaît, voilà, lié à la femme en moi. Maintenant, le nouveau patron, c'est un ancien para qui a fait galant du Nord. On est entre mecs.
Ouais.
C'est excellent. Je vous cite juste les autres les titres des autres chroniques, ça vous donnera vraiment l'idée. Pocahontas, être femme et indienne chez Disney. Neuilly sa mère, humilier et punir. Le gosse des cités. Réponse, peut-on être à la fois princesse et féministe chez Disney? Killer Joe, des viols chez les ploucs et ce qu'en pense la critique française. Dans la rue, il y a bien évidemment une présentation en fait, du blog Le cinéma et politique. Et c'est et la question pourquoi ce site? Parce que le cinéma et les séries télévisées sont un des lieux privilégiés où s'élaborent et se transforment les normes qui façonne nos représentations et nos vies, et parce que l'immense majorité de la critique française refuse de prendre en compte cette dimension politique et sociale des œuvres d'art, pourtant essentielle à leur compréhension. Nous pensons qu'il est urgent de contribuer à une politisation du discours sur le cinéma. On se croirait un peu à l'époque de Positif. Pas loin.
Ouais.
Pas loin. À mon avis, c'est un truc à suivre. Je pense qu'on va le lire attentivement et qu'on va en parler. Et ça tombe bien puisque parler de politique dans une série télé, c'est exactement ce dont Thomas va faire dès maintenant avec, ma foi, le retour d'une série très attendue, pour l'instant uniquement aux États-Unis. Ultimatum.
Oui,
mais Canal+ commence à peine à passer le premier. Ah non, faut Orange Cinéma Série à passer les deux saisons. Je dis une connerie. Et Canal+ commence à diffuser la première saison.
Ouais, a déjà commencé d'ailleurs. Je parle de cette série aujourd'hui puisque le premier épisode de la saison 3 sera diffusé sur HBO le 31 mars prochain et c'est la série Game of Thrones, le trône de fer en français. Alors excusez-moi pour mon accent, c'est Thrones.
Thrones.
Allez, dis-moi Game of Thrones.
Game of Thrones.
D'accord, bon, tu le dis mieux que moi.
Alors voilà, une série HBO créée par David Benioff et D.B. Weiss d'après la saga littéraire d'Heroic Fantasy, Le Trône de Fer de George R.R. Martin, qui est, je l'ai marqué, qui est publié chez Pygmalion en France et dans la collection J'ai lu en format de poche. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça raconte ? C'est juste la lutte pour le trône de fer, donc le trône du roi, le symbole du pouvoir absolu dans le royaume des sept couronnes. Et c'est un jeu d'échiquier entre sept familles, sept maisons principales. Un jeu d'échiquier géant entre manœuvres politiques, batailles violentes et manipulations en tout genre.
Avec c'est du MP, quoi.
Plus complexe.
Ouais, voilà.
Largement plus complexe.
Ouais, enfin, c'est quand même consanguin, d'après ce que j'ai compris.
Il y a du consanguin, oui, effectivement, mais tu t'es bien documenté sur la série, effectivement.
Non, sur l'UMP.
Alors, la série débute sur la mort de la main du roi, qui est une sorte de premier ministre, en fait. Le roi, donc, vient demander de l'aide à l'un de ses meilleurs amis, qui est un ancien camarade de guerre, qui est Ned Stark, qui est seigneur pour sa part
de Winterfell,
un pays moisi au nord où il fait un temps de merde tout le temps, il neige, il fait froid, il c'est de la
Bienvenue
boue.
Bienvenue chez les ch'tis.
Voilà, exactement.
Non mais les gens sont beaux dans Winterfell.
Ah, ouais, c'est tous des bruns frisés et beaux.
Oui,
ouais.
Bah si.
Ouais. Et Ned Stark, donc, appelé à la rescousse pour remplacer la main du roi, en fait, va commencer à mener son enquête sur la mort de son prédécesseur et donc, forcément, il va finir par découvrir des trucs qu'il aurait surtout pas dû savoir, surtout quand tu es plutôt un homme de bataille, un homme d'honneur, un homme droit, et que quand tu arrives à Port-Réal dans l'antre de toutes les manœuvres politiques, si tu maîtrises pas le jeu d'échiquier, il y a des chances que tu dures pas forcément très longtemps.
Que tu sois sacrifié. Ouais.
C'est l'échiquier de Machiavel, alors.
Ah, tout à fait. Pendant ce temps, parce qu'il y a trois intrigues parallèles, il y a le fils bâtard de Ned Stark, justement, au début de la série, Jon Snow, qui part rejoindre la garde de nuit, qui est une sorte d'ordre Jedi, on sait pas trop si c'est une punition ou un honneur d'aller là-bas. En fait, tu gardes un mur géant, qui est donc une référence directe au mur d'Adrien, un mur géant qui est censé contenir l'invasion des barbares du Nord par rapport au royaume de Westeros. Mmh. Donc voilà, donc c'est un énorme mur, et derrière t'as des trucs pas très catholiques et un peu angoissants qui se passent, mais n'allons pas trop vite en besogne. En même temps, troisième intrigue parallèle, les deux frères et sœurs Targaryens, qui sont les héritiers légitimes de l'ancien roi du trône de fer, qui a été poignardé puisque c'était le roi fou, ils veulent se venger des usurpateurs. Pour cela, le frère, qui est complètement déglingué, marie sa sœur de force au roi des Dothraki, qui est une espèce de tribu de barbares super sauvages, et on va dire que c'est une tribu particulière, hein, voilà. Et donc elle va forcément apprendre certaines choses de la vie par le mauvais côté, on va dire, voilà. Donc plein de...
C'est joliment dit.
Hein, oui, pour ceux qui connaissent, on sent de quoi je parle, mais bon, je vous laisse essayer de vous faire des images dans la tête pour ceux qui connaissent pas. Voilà.
Ça marche bien, oui. Voilà.
Alors pourquoi cette série marche bien ? Bon, alors les ingrédients, alors c'est bon, évidemment, si vous aimez pas l'Heroic Fantasy, les grosses épées, passez votre chemin, ça vous intéressera pas. Hein, ça, c'est
moi j'aimais pas trop ça et j'ai bien accroché à la série.
Ah bah tiens, bon, bah ok.
On en parlera tout à l'heure.
Ok. On a un souffle d'Heroic Fantasy. Bon, alors par contre, c'est une série qui est assez bavarde, hein, faut pas le cacher. Alors, c'est une série d'Heroic Fantasy dont le côté fantasy arrive plutôt vers la saison 2, la fin de la saison 1, puisqu'au début, c'est plutôt des intrigues de palais, même si c'est en sous-texte, bien sûr. Forcément, quand il y a la fantasy qui arrive, on a tous les ingrédients classiques, les dragons, les sorcières, les prémonitions, les morts-vivants, pas de soucis. Alors, mais c'est vrai que la saison 1, c'est plutôt en sommeil, on va dire. C'est plutôt l'exposition, que sont les familles entre eux, les crevures, les moyennes crevures.
Beaucoup de suggestions quand même, je trouve.
Oui, c'est
parce que ouais.
Oui, c'est la suggestion, mais on les voit pas encore arriver.
On en voit un.
Oui, au début. C'est ça. Ouais. Donc on a cette dimension heroic fantasy. On a déjà c'est une adaptation d'une série de romans de fantasy à succès, donc c'est vrai que le matériau est déjà là, puisque pour l'instant on sent que la deuxième saison, mais on sent on voit qu'il y a du potentiel, on le sait, avec tous les bouquins qui ont été écrits, il n'y a pas de problème, si ça continue de marcher, ils peuvent anticiper. Donc le titre original de la série s'appelle The Song of Ice and Fire. Ça fait le titre d'une chanson des années 80 un peu. Hein.
Groupe de métal.
Ouais, ouais. Alors, en fait, Game of Thrones est juste le premier volet de cette saga Song of Ice and Fire, puisqu'en fait, le ice, c'est la glace, donc ça rappelle vraiment les tribus barbares au nord du mur, et le fire, c'est vraiment ce danger dragonesque, en fait, qui plane un peu sur tout le royaume. Donc, je l'ai dit tout à l'heure du romancier George R. R. Martin, HBO oblige, alors ça contentera surtout les mecs, beaucoup de sexe, de scènes de sexe et de nudité. Vous connaissez les productions HBO, dès qu'il est question de personnes à poil ou de scènes de copulation, ils ne connaissent pas l'ellipse.
Pourquoi s'en priver ? C'est pas une chaîne hertzienne, donc ils sont pas contraints aux mêmes règles de la FCC, c'est-à-dire l'équivalent du CSA aux États-Unis, ne légifèrent que les chaînes hertziennes, donc les chaînes du câble, ils font ce qu'ils veulent.
Alors par contre, ce qui est intéressant pour ceux qui sont un peu friands de ces scènes-là, c'est qu'on voit des acteurs qu'on a l'habitude de voir dans d'autres séries et qui se mettent littéralement à nu dans ces séries-là, donc on voit que c'est pas une barrière pour tout le monde. Alors HBO oblige, on n'a pas que des nanas qui sont dénudés, ça c'est plutôt intéressant. Voilà.
Oh le sourire.
série également HBO d'aventure oblige, à l'instar de Rome, c'est une série au budget pharaonique, un tournage disséminé à travers l'Europe parce qu'en plus c'est dans des conditions réelles, donc on a l'Islande, Malte, l'Irlande. Ah ouais. Alors toi qui avais parlé par exemple de Valhalla Rising pour les paysages écossais, là on a les paysages d'Irlande. Bon, voilà, faut regarder ça pour la même raison qu'on regardait Valhalla Rising. Alors par contre c'est plutôt une ambiance britannique. Donc, on va dire, ceux qui aiment bien regarder les matchs de rugby le samedi pluvieux savent de quoi je parle. Hein. On n'est pas au Maroc. Hein. voilà, les gars, ils se pèlent les miches. C'est boueux. On y va sec. Bon, alors, voilà, quand tu te remets d'une bataille, c'est dans une tente, il fait froid, il y a de la buée, c'est humide. Bon, voilà, tu dis, ouh, je suis bien avec mon infusion, là, en train de regarder la série. Voilà. On a également un festival de personnages assez riche, puisque, bon, je m'adresse à la connaisseuse de la série ici, on va dire à part la famille à laquelle on peut s'identifier au début par le père et les enfants qui sont les Stark, plutôt la famille, on va dire, qui symbolise l'honneur, en fait, la famille lumineuse, tous les autres à peu près se situent dans des niveaux de gris plutôt sombres plutôt que clairs. Hein. c'est un festival de crevures en tout genre, mais de saloperies que tu n'imagines même pas.
Oui, mais parfois attachantes, les saloperies attachantes.
Oui, les saloperies attachantes, des fois, au travers d'un épisode, tu peux voir que la saloperie en question n'est pas forcément très très noire, mais après, t'inquiète, ça revient l'épisode d'après, ouais. Tu vois que, ah tiens, t'aurais pu... Ah ben non, c'est une belle crevure quand même. On parlera du casting tout à l'heure. Et donc, ouais, voilà, ben, on y est au casting, casting béton d'acteurs britanniques. Alors, ce sont peut-être des noms qui ne vous diront peut-être pas grand-chose au premier abord, mais que vous avez déjà vu et qui ont fait des rôles marquants dans d'autres fictions, séries ou films. Alors, on commence par la tête d'affiche de la série au début, qui est Sean Bean, qui, depuis son rôle de Boromir, est abonné maintenant au rôle avec des grosses
Sean
épées.
Sean Bean, quoi.
Sean Bean, voilà, acteur irlandais qu'on ne présente plus, qui a joué dans tonnes de films et tous les films de Neil Jordan. Il faut un Irlandais. Sean Bean est à la rescousse, donc il interprète donc le personnage principal au début de Ned Stark, hein, qui devient la main du roi. On n'en dira pas plus sur le rôle.
Non,
hein.
Non.
Hein, bon, voilà. Lena Headey, dont je parle souvent dans cette émission, qui faisait la reine dans 300, femme de Leonidas, qui avait joué Sarah Connor dans
Sarah Connor, Connor ouais, dans les Chronicles. Ouais, ouais.
Alors là, elle interprète une salope.
Oh,
mais là, une salope intégrale, Cersei Lannister, la reine, qui est vraiment la crevure incarnée, mais
intelligente.
Ah ben ouais, oui, eh ben, et plus intelligent, plus une crevure, de toute façon, plus elle a de chances de durer dans la série.
Quoi.
Ah ouais, donc là, voilà, elle est excellente, vraiment une actrice excellente. Alors après, du casting d'or massif, Charles Dance, qui avait Alien 3, enfin voilà, après toi, du sport, ouais. Tu pourras me citer des trucs un peu plus culturels,
ouais, là,
il avait joué l'Instruction Hero, le méchant, bon voilà, qui joue le patriarche des Lannister, mais... le gars, voilà, faut pas le faire chier. Peter Dinklage, donc, qui est la révélation de la série, qui est l'acteur nain, qui a eu l'Emmy Awards 2011 et le Golden Globes 2012 pour son rôle de Tyrone Lannister, qui est, on va dire, le petit canard de la famille Lannister, parce qu'il a plutôt un sens de l'honneur plus développé que ses congénères.
Ça tombe mal.
Ouais, et qui, par contre, lui, au contraire de certains autres personnages, maîtrise totalement les règles pour faire son trou dans le royaume avec les échiquiers politiques et tout. Alors là, c'est un vrai régal quand il commence à placer ses pions, parce que tu... Oh putain, ouais, alors là, c'est un festival de phrases bien senties, de punchlines, et voilà. Carice Van Houten, actrice hollandaise qu'on a pu voir dans Pillow Book de Verhoeven,
oui,
qui incarne une sorcière, qui est Mélisandre dans la série, pour je dis à Sushi. Donc voilà, qui est la manipulatrice derrière l'un des principaux rois de la série, et qui est très très bien aussi, puis qu'on voit sous toutes les coutures aussi, ne vous en faites pas. Jason Momoa, qui incarne le chef des Dothraki.
Le prochain Conan.
Bah, le nouveau Conan, puisque...
Bah oui, le prochain, le remake, il n'est pas encore là.
Bah si, le remake de Conan qui est déjà sorti l'an dernier.
Oui, oui.
Alors c'est marrant, il peut être aussi Lavas et Monsieur Propre dans Conan, qui peut être vraiment très 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 inquiétant dans la série, et le seigneur Dothraki, Khal Drogo, qui est vraiment la sauvagerie à l'état pur, mais on voit qu'il y a un port altier qui est... Voilà, on peut s'identifier aussi à lui, et puis bon, je passe un peu les acteurs et actrices qui sont un peu plus méconnus, mais sinon on ferait des tartines pendant des heures. Alors Game of Thrones se caractérise également par... on vous mettra le lien sur le site de l'émission, puisque un dosage savant et de gestion des communautés sur Internet, hein, ouais, les réseaux sociaux.
Même, moi je connais pas du tout la série, hein, je dois reconnaître, un excellent article est sorti sur le blog du modérateur sur la stratégie digitale de Game of Thrones, et c'est hallucinant le travail monstrueux qu'a fait HBO, qui est une chaîne payante, hein, c'est l'équivalent de Canal+, pour essayer d'entretenir justement la flamme autour de la diffusion de la série, aussi bien sur Twitter, sur Facebook,
Sur
leur site,
sur le site internet, sur les applications, sur les seconds écrans, comme on dit, ensuite de la série.
Et ça va même jusqu'à faire des trucs en plein direct, c'est-à-dire poser des questions. Dans le livre original, Kathleen dit à John, cela aurait dû être toi. Est-ce que cette ligne aurait dû être gardée par les scénaristes, ou est-ce que l'écrivain a bien fait finalement de retirer ce dialogue? Des trucs en live comme ça, c'est incroyable. Sur cette portée-là, ça entretient énormément la série. Il y a énormément de fidélisation du public en les amenant à voter pour leur phrase favorite, ou aussi bien à faire du fan art.
C'est
la gestion de
série
2.0.
À un niveau qu'en France on ne connaît pratiquement pas. Ouais. Même non, Canal n'est pas arrivé à ce point. Quoi.
Oui, mais bon, Canal, voilà. Mais après, c'est une gestion des community managering qui est classique, on va dire, par rapport à ça. Par contre, le principal, le sinistre actif de la série, c'est une série qui est plus regardée par le piratage que par vraiment les sources classiques et légales. Alors là, bon, ça c'était plutôt un éclairage sur la série qui était plutôt un peu littéraire, mais là on va vraiment dire ce qui plaît vraiment, puisqu'on on est deux ici à aimer la série, c'est que vraiment c'est une série qui plaît, selon moi, autant aux fans d'Heroic Fantasy, parce que t'as beaucoup d'épisodes bavards, mais tu as aussi toute une armada d'éléments. T'as des loups qui sont à mi-chemin entre loup-garou et le loup un peu fantastique aussi, qui va passionner les gens qui sont attirés par la mystique et par un peu plus ce côté entre guillemets miyazakien, sur le rapport à la nature par rapport aux animaux. On a des intrigues de palais qui va contenter ceux qui cherchent un peu plutôt un éclairage un peu plus profond et des plusieurs degrés de lecture à la série. On a des références à l'Antiquité, je disais par rapport au mur d'Adrien par exemple. On a également une geekerie avec cette dimension mort-vivant et un peu plus fantastique qui est sous-tendue dans toute la série, mais tu vois des images quand même, donc ça brasse un peu tous azimuts. Et puis c'est quand même super intelligemment fait. Tu peux t'identifier, t'as tout type de public qui peuvent s'identifier, évidemment il faut supporter les scènes de violence, mais t'as des héros qui sont des hommes, des femmes, tu as des enfants en bas âge, t'as plutôt des adolescents, t'as plein d'intrigues parallèles qui peuvent aussi satisfaire plein de publics différents. Et puis quand ça va dans la bataille, ça charcle pas mal. Quand tu vas dans les intrigues de palais, c'est extrêmement violent. Les intrigues de palais sont beaucoup plus violentes que les batailles d'ailleurs. Et puis t'as un festival de personnages qui sont tous complémentaires et...
Il y a une vingtaine de personnages principaux d'après
à peu près. Et puis en plus tu sens que il y a des familles au départ qui sont présentées comme primordiales et majeures qui vont plutôt après être en déclin par rapport à d'autres familles où tu dis ah ouais mais pendant toute une saison tu en parlais de certaines familles qui arrivent dans la saison 2 et puis tu vois que ah ouais il fallait pas les prendre à la légère non plus parce que aussi ils veulent avoir leur part du gâteau et il y a aussi une belle beau festival de crevures aussi dans des contrées que nous ne soupçonnons pas. Donc voilà, et puis en plus t'as des... voilà, on n'a pas parlé d'autres éléments du casting, comme parce qu'en plus il faut vraiment, en termes de direction d'acteur, comme toutes les intrigues, la majorité des intrigues sont concentrées dans Westeros, les deux intrigues parallèles qui se passent au mur et avec les héritiers de l'ancienne famille de rois ont intérêt à ne pas être mièvres parce que sinon il va y avoir un déséquilibre et ils ont réussi véritablement un tour de force avec cette actrice qui incarne Daenerys et qui est la blonde voilà le rôle lumineux de la série également avec les dragons qui est aussi bien pensé. Sushi, t'avais peut-être des remarques à faire sur la série. Toi qui n'aimais pas l'Heroic Fantasy a pu venir à cette série là pourquoi tu as eu besoin de voir, envie de voir cette série?
Et moi on a parlé en fait de cette série, on m'a dit regarde Game of Thrones, c'est juste le truc à voir en ce moment et tout. Je me suis dit bon, j'aime pas trop faire cette démarche là quand tout le monde l'a vu d'aller le voir, mais bon je me suis dit allez pourquoi pas. Premier épisode, j'ai pris une grosse claque. Même si ça dure 50 minutes, je crois, par épisode, c'est très très long. Mais en fait, on voit pas le temps passer. Il y a des personnages attachants et vraiment, on est impliqué dans l'intrigue. On se demande où est-ce que ça, jusqu'où ça peut aller finalement. Et on se dit non, ils ont pas osé faire ça. Et ben si, ils l'ont fait et ça va de surprise en surprise. Bon.
Ça va plus loin que les Borgia, quoi.
J'ai pas vu Borgia, donc
violence,
je sais pas.
Peut-être pas, mais non. Quand même pas, non.
Mais en termes d'intrigue et en termes de rebondissement, tu te dis une série qui peut tout jouer sur une première saison, qui peut très bien se péter la gueule parce qu'elle va trop loin, bah, ils ont tenté et ça a très bien marché. On s'attache beaucoup, bon, bah, après je pense que c'est voulu, à la famille Stark parce qu'on nous présente en long, en large les personnages. Bon, moi je suis tombée amoureuse de Jon Snow personnellement.
Ouais, t'es pas la seule, hein.
Mais bon, enfin, très bon choix. Je trouve que comment dire, qui distille toutes les histoires en fonction des familles, ça permet de mettre en pause ce qui se passe ici. Puis on voit qu'il se passe encore plein de trucs de l'autre côté. On se dit tout ça en même temps, c'est un sacré bordel. Comment ils vont y arriver? La famille est donc des barbares, comme tu dis. Bon, ça, c'est juste extra. Voilà, le seul regret que j'ai, si je devais comparer la saison 1 et la saison 2, c'est que la saison 1 va très très vite. Il se passe beaucoup de choses et dans la saison 2, ils ont un petit peu marqué le pas et je trouve qu'il y a moins. Très ralenti et ce qui se dit, c'est qu'au niveau des bouquins, ça va beaucoup plus vite. Et moi, j'ai peur qu'ils veuillent faire un truc en 10 saisons, un truc interminable, plutôt que de faire peut-être 4 saisons bien condensées qu'on appréciera de revoir, quoi.
Mais après, ce qu'il y a de la raison pourquoi ça va aussi vite dans la saison 1, c'est que c'est le point culminant arrive. Ce sont des saisons de 12 épisodes, donc ça arrive au 10e épisode où il y a un des personnages principaux qui meurt et c'est ça qui déclenche une énorme guerre civile, puisqu'il y a les vengeances, etc. Et dans la saison 2, en fait, chacun avance ses pions et il y a des effets dominos qui sont plus en latence et il y a des personnages qui vont être enlevés par des gens, qui vont devoir monnayer, qui vont être échangés avec d'autres familles. Tu sens qu'il y a un énorme bordel, un chaos ambiant qui va commencer à exploser, mais ils font monter la sauce sans pour autant montrer
les trucs. C'est ça le truc
qui est
frustrant.
Et t'as quand même à la fin de la saison 2 un énorme siège sur Port-Réal qui est avec des effets spéciaux de partout.
Ouais, mais elle m'a assez déçu cette scène-là parce que j'ai trouvé que c'était trop vite fait, quoi. Enfin, c'était quelque chose qui paraissait insurmontable. Finalement, on y arrive. Enfin, c'est mal, je trouve que c'est mal expliqué. J'ai pas réussi à rentrer dans le truc. Après, je me dis sûrement que la saison 3, vu que là, il y a eu une saison pour patienter, entre guillemets, peut-être que la saison 3 tiendra toutes ses promesses. C'est-à-dire que là, on va avoir une confrontation directe et...
En tout cas, le plan communication de la série mise tout sur, le fait que certaines petites bébêtes commencent à grandir et ils exploitent bien cette...
J'attends ça avec impatience, voilà. Parce que c'est vrai que la saison 1 se termine, on est là, non mais c'est pas possible, quoi, vraiment. Et on n'a qu'une hâte, c'est de voir la suite, quoi. Et c'est vrai que ça n'a pas fait cet effet-là à la fin de la saison 2. Donc j'espère que là ils vont exploiter donc ces pistes là au niveau fantastique, parce que finalement moi qui mets pas ça plus que ça, ça m'a intrigué, ça m'a donné envie de voir la suite. Et surtout quoi, ce que tu as dit, les intrigues de palais, ça c'était juste le top. Tu te dis mais c'est vraiment un enfoiré quoi.
Et oui, c'est des enfoirés parce qu'en plus tu as l'impression, on va terminer là-dessus, que c'est ça qui fait très très peur. C'est comme, c'est ce qui faisait peur aussi dans Oz par exemple, c'est que bien que une flopée de personnages principaux, tu peux t'identifier à eux, aucun personnage en deux minutes à peine n'est à l'abri de crever. Et là, tu le sens en fait. Même des enfants, des femmes, des guerriers, des pas guerriers. Ouais. Tu te dis, 10 minutes après, tu reviens des toilettes et puis baf, il est mort. Donc c'est ça aussi qui.
C'est addictif.
La nouvelle saison, donc vendredi prochain à 9h, heure côte est, aux États-Unis.
Oui, alors je crois qu'ils veulent développer un système de partage en ligne le lendemain auquel tu peux accéder en payant.
Il y a une diffusion sur Orange Cinéma Série, je crois, dans les 24 heures.
Épisode,
mais effectivement, ouais. HBO voulait pas. La question a été longuement posée à HBO sur quand est-ce qu'on va avoir les abonnements par série et pas uniquement prendre le foot et tout ça. Donc un peu l'équivalent Canal Plus à la carte. Et HBO a toujours dit non. Mais depuis hier, il y a une rencontre entre les différents actionnaires, dont la Warner. Donc il se peut que ça change et il se peut que du coup HBO fasse le pari d'exploiter son matériel qu'ils ont créé au niveau international. Et donc on explose la régionalisation des offres. Et donc Canal+, qui... Première saison, c'est ça ?
Oui, ça sent la première saison actuellement.
Ils vont avoir l'air sérieusement ridicule après ça.
Alors voilà, on rappelle la référence Game of Thrones.
Game of Thrones.
Voilà, le Trône de Fer en version française, série HBO, créée par David Benioff et D.B. Weiss d'après la saga littéraire d'Eric Fantasy, disponible chez Pygmalion en France ou chez J'ai lu en format poche, le Trône de Fer de George Martin. Première diffusion de la saison 3 sur HBO le 31 mars 2013, actuellement diffusée sur Canal+, et évidemment procurable par des moyens beaucoup plus illégaux de partout.
Ah oh bah bravo. On reste dans la télévision.
Eh oui.
Ah bah ça change d'ambiance. Non, pas la chemise.
Et pourtant c'est pas une musique de circonstance. Parce que c'est parce que Francis Lax nous a quittés cette semaine.
Alors, rassure-moi, tu connais Francis Lax ?
Bah non, oui, non. Quand même un peu, quoi.
Là, il parle de la période pré-production, j'ai appelé du sport pendant qu'il était en train de gaver les petits démons.
Et donc, parce que Xavier m'a dit...
il n'a pas tilté.
Xavier m'appelle, il me dit, putain, tu ne croiras jamais, du sport ne sait pas qui est Francis Lax.
Mais si, quand même.
Et je lui dis, attends, tu l'appelles, si. Il est avec les mômes, je suis sûr qu'il pensait à autre chose.
Alors, il fait partie de cette grande confrérie doubleurs de séries télé et de cinéma également. Hein. C'est la voix d'Harrison Ford. Aussi quoi, hein, entre autres quoi.
De Hutch,
hein,
David Soul,
enfin bon, de beaucoup de gens qu'on connaît. C'est également un doubleur, c'est également une voix pour des dessins animés pour plus petits enfants quoi. Donc rest in peace Francis Lax.
Oui, il en a fait beaucoup
ah ouais,
des
non
voix,
mais bon, c'est un vieux hein, c'est un vieux de la vieille quoi, Francis Lax. Il a été également acteur hein, c'est un acteur hein, qu'on a vu également dans quelques films français dans les années 70 dans les années 60. Bon, j'ai pas potassé le sujet, alors je vous en dirai pas plus. Point à la ligne.
Oui, ça, rappelons juste que Jacques Balutin est toujours vivant, lui.
Oui,
par
Balutin est toujours vivant. Voilà.
Francis Lax, Jacques Balutin, c'était le duo mythique de Starsky et Hutch.
Grâce à lui, on n'a pas connu les blagues originales, ils ont fait les leurs. Donc, on n'a pas compris la série originale du tout. Alors qu'elle était quand même assez pro-gay, hein, quand même, par moment.
Allez, encore un anniversaire à présent, c'est les 20 ans de Série Club qui débutait en 1993, au siècle dernier. Le 8 mars.
Elle est pour le bêtisier, celle-là.
Le 8 mars, ce n'était pas la journée de la femme à l'époque. En 93, ça n'existait pas encore. Et à l'époque, cette chaîne du groupe, une chaîne thématique du groupe M6, donc, faisait de la concurrence à 8 autres chaînes seulement thématiques. Il n'y en avait pas plus.
Ouais, et il passait qu'une seule série.
Et par contre, on avait droit à l'homme de fer, l'homme du Picardie, des petits trucs comme ça, quoi. Enfin bon, vraiment
Madame
des trucs.
Madame est servie.
Madame est servie. Madame est servie, c'était pas mal, quoi. Franchement, quoi. Bon, bref.
Mais par la suite, bon, bah, ils ont décidé de faire des petites rediffusions un petit peu osées, un petit peu plus tendance, on va dire, avec la rediffusion en version originale, s'il vous plaît, sous-titrée de Twin Peaks. Et au bout d'un certain moment, fin des années 90, ils se disent, bah, on va tenter le pari de série complètement originale, et ça nous donne Oz. Ça nous donne Buffy la même année, ça nous donne Stargate un peu plus tard, et ça nous donne, à partir de l'année 2000, où TF1 rentre en tant qu'actionnaire minoritaire dans le capital de Série Club, enfin dans le bouquet, et donc donne accès à ses produits, eh ben ça donne également des West Wing, des 24 heures, des petits trucs comme ça. Bref, bon, évidemment, en seconde ou en troisième décision, mais quand même du matériel assez intéressant. Et pour fêter ses 20 ans, eh bien, Série Club vous propose 3 nouvelles séries en inédit. Et ça se passe dès demain soir avec tout d'abord New York City 22, demain sur Série Club à partir de 20h50, production Robert De Niro, ah ouais, avec Lily Sobieski, Adam Goldberg et Terry Kinney. Ça raconte l'histoire, eh bien, de rookies de la police new-yorkaise qui sont formés par des instructeurs. Terry Kinney est l'un d'eux, Lily Sobieski, Adam Goldberg jouant donc le rôle des jeunes rookies. Ça ressemble un petit peu à Rookie Blue, hein, cette série canadienne qui a exactement la même thématique, mais on peut se dire que ça sera peut-être traité différemment, du moins c'est ce qu'on espère. C'est à partir de demain soir, donc à 20h50 sur Série Club, New York City 22. Et par contre, c'est La Rafale avec 6 épisodes diffusés. Même ouais, pas dans l'ordre. Bravo les gars.
Il y en a marre de ça. C'est
bravo
bon,
les gars.
Merde.
Plus tard, le 1er avril, il y aura Suits, avocat sur mesure. Suits, S-U-I-T-S.
Oui, oui, les costards.
Avocat sur mesure. T'as vu, en plus avec le jeu de mots et tout, quoi. Hein, sur Suits, sur le sur mesure et tout. C'est magnifique, quoi. Le 1er avril, donc, un truc d'avocat avec Gabriel Marthe. Et on attendra surtout le 11 avril, American Horror Story, la série de Ryan Murphy avec Dylan McDermott et Connie Britton entre autres. Ce sera donc diffusé à partir du 11 avril sur Série Club, mais si vous n'avez pas envie de patienter, eh ben c'est dès ce soir American Horror Story sur Ciné Plus Premier à partir de 20h50.
Punaise, ce soir je sais ce que je regarde.
Comment se faire griller par une autre chaîne.
Alors demain... Non, c'est la saison 2 et c'est une toute autre histoire. Hein,
d'après. Ah bah oui, bah mais justement, ils ont déjà diffusé la saison.
Bah alors attention, hein, si vous regardez cette série, soyez bien accrochés parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment très hardcore.
Alors on va quand même rappeler que Ryan Murphy est d'abord le créateur de Nip-Tuck.
Ouais,
on l'a dit. Et après de Glee.
Ah oui.
Glee.
Vous avez pas comme ça, non? Glee.
Demain soir sur France 3, l'inspecteur Barnaby change de tête. Le titre de l'épisode s'appelle Le Cavalier sans tête. Non, mais ça change de tête parce que John Nettles, Tom Barnaby, n'officie plus. On a un petit peu ras la casquette et c'est donc
son cousin.
Son cousin, c'est son cousin ou son frère?
Non, je crois que Barnaby, c'est son cousin.
Ouais. John Barnaby, donc interprété par l'excellent Neil DeJohn, qui reprend donc le rôle.
Non, moi j'aime bien quand même ce taux de mortalité incroyable et de meurtre violent dans les campagnes anglaises.
En général, il y a 5-6 morts. En général,
La jeune tri anglaise, quand même, est plus dangereuse que le Mirail.
C'est incroyable comme ça dégomme à Coston.
Et encore des habitants, quoi. C'est ça qui est dingue.
On a toujours Jason Hughes, donc qui interprète le rôle de Ben Jones, le partenaire de Barnaby. Et on a également sur France 2 vendredi prochain Les Petits Meurtres d'Agatha Christie. Vous connaissez cette série?
C'est le retour.
Alors c'est le retour, mais par contre les deux acteurs principaux de la série précédente, Colucci et l'autre, je me rappelle pas comment il s'appelle, Marius Colucci, le fils de Colucci
et
Antoine Duléry. Antoine Duléry, on dit bon, on a un petit peu ras le cul. Et donc ils ont décidé non pas de changer uniquement les acteurs, on va dire, ce qui aurait pu peut-être passer, on va dire, bien que c'est un petit peu difficile de passer après tes acteurs la fidélisation des téléspectateurs et tout. Ils se sont dit on va changer d'époque, d'atmosphère. Et là on se retrouve dans les années 50 avec encore un duo interprété donc par Samuel Labarthe et Sandrine Bellavoir. Samuel Labarthe, lui on le connaît surtout pour le théâtre, comme sociétaire de la Comédie Française. Et Sandrine Bellavoir, elle Alors, sans jeu de mots égrillard, elle fait le grand écart entre sa participation à Plus belle la vie et à Maison close.
Bon, ceci dit...
si c'est pas du grand écart, ça quand même, quoi.
Mais ceci dit, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai vu quand même dans les bandes annonces, c'est moins orienté humour, parce que la série était très orientée loufoque, avec vaguement la base des romans originels, et plus justement sur un peu la confrontation homme-femme, donc le côté très sexiste.
C'est plus un petit truc pète, genre... humour à la british, si tu veux, un petit peu guindé comme ça, c'est un petit peu voulu. C'est l'atmosphère qui change également, hein. C'est pour ça que l'humour change également, quoi, à mon
avis.
Mais
en tout cas, c'est plutôt une bonne réussite de ce côté-là.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
C'est l'une des rares réussites des chaînes hertziennes. Hein,
voilà, donc à partir de vendredi prochain, donc sur France 2 à 20h45. Alors, des films à présent, alors ce soir, que du bourre-pif, quoi. Avec tout d'abord sur RTL 2 à 20h45, Predator 2 de Stephen Hopkins.
RTL 2,
comme
il
quoi
a dit...
il a fait des bons films.
Non, il a dit RTL 2.
RTL 9, pardon.
On n'est pas en Allemagne.
Ou alors, on a sur Ciné Plus Club une soirée Bronson, Charles, de son prénom, avec tout d'abord à 20h45, Monsieur Majestic, qui est vraiment bien, de Richard Fleischer, avec Bronson et Lina Crystal, suivi du Flingueur à 22h25 de Michael Winner, avec qui il a fait plus tard Death Wish. Les Flingueurs, c'est l'histoire avec John Michael Vincent qui joue le rôle de son protégé et tout ça, quoi. Et qui interprète plus tard Supercopter. Il y en a également Keenan Wynn dans Le Flingueur. Sinon, TCM, comme d'habitude, c'est prenez les commandes, choisissez votre film. Alors ce soir, c'est deux films de guerre en première séance. Jour de gloire de Jacques Tourneur ou les Diables de Guadalcanal de Nicolas Ray. Et alors là, c'est encore plus surprenant parce qu'en deuxième partie, c'est film de bestioles, on va dire. Et t'as le choix entre deux films du même réalisateur. C'est soit Vaudou, soit La Féline de Jacques Tourneur. Deux films en plus, un an d'écart seulement, 42 et 43. Donc pour cette deuxième séance sur TCM ce soir. Demain, sur D8, un petit Réservoir Dogs. Et c'est vrai qu'on voit pas mal de Tarantino à la télé, mais pas forcément celui-là. Celui-là, c'est quand même assez rare de le revoir à la télé, quoi. Enfin, un peu plus rare que Kill Bill, que Jackie Brown et des films comme ça. Donc c'est ce soir, demain soir sur D8 à partir de 22h50. Et sur 13e rue, nouvelle série suédoise inédite, instillée par les producteurs de Millennium. C'est Annika Bengtström. Reporter, c'est des téléfilms avec une journaliste qui se trouve impliquée dans des enquêtes criminelles avec Malin Krépin, Björn Kielman. Le titre de ce téléfilm demain soir sur 13e rue, c'est Le Testament du Nobel. À 22h10 sur 13e rue, on suit dans la tendance avec un petit documentaire sur la nouvelle vague du polar scandinave qui s'appelle Ice Crimes. Sur FX demain soir, vous avez dit Vampire, l'excellent film de Tom Holland qui a fait une petite carrière, on va dire. Comme scénariste, il a fait. Excusez-moi.
Très bon film.
Lequel Vampire, vous avez dit Vampire avec Chris Sarandon, Roddy McDowall et tout. C'est pas mal, hein, c'est vraiment un film. C'est un petit peu rigolo et tout. C'est de la comédie horrifique, on va dire, quoi. Un petit peu, quoi. Et il a fait également Beauté Fatale comme réalisateur, hein, le film avec Whoopi Goldberg. Il a fait également la série TV Les Langoliers. Sinon, demain, un excellent film sur OCS Ciné Géant, maintenant, c'est Les Contrebandiers de Moonfleet de Fritz Lang avec Stewart Granger et George Sanders. Lundi, sur Arte, un des chefs-d'œuvre de Peckinpah, Guet-apens de. Le scénario de Walter Hill, tiré du bouquin de Jim Thompson, Le lien conjugal. qu'est-ce qu'il veut dire de plus? Steve McQueen, Ali Magro, Ben Johnson. Il n'y a rien à dire de plus, quoi.
Les ralentis, fusil à pompe.
Les ralentis, fusil à pompe, la scène de fusillade dans le motel. Enfin bon,
oui.
Tu vois,
hein,
ouais,
hein.
Franchement, quoi. C'est ça le cinéma.
Je l'ai vu au cinéma lors d'une ressortie.
Il faut le voir au moins une fois au cinéma. Ouais. Cinéma. De toute façon, tous les pics de Peckinpah, il faut les voir au moins une fois au cinéma quand même, quoi. Les autres aussi, hein, parce que sinon les mecs de la cinémathèque vont nous engueuler, quoi. Ouais, faites chier, tout le temps parler des films à télé et tout, petit écran de merde.
Et puis en plus, ils ont une super proc ce mois-ci sur les films de la Universal, pardon. Yes. J'allais dire de la Hammer.
Alors, lundi sur Sci-Fi, The Hyde de Xavier Pallu et David Moreau avec Jessica Alba. Eh oui.
Ah, on revient
Le film de Sergio Leone, Il était une fois à la Révolution, visible lundi, soit en première partie de soirée, soit en deuxième partie de soirée. Première partie de soirée, vous pouvez le regarder sur D8 à 20h50, ou alors en deuxième partie de soirée, 22h50, sur Ciné Plus Tard, lundi prochain. On a sur Ciné Plus Classique l'invasion secrète de Roger Corman avec Stewart Granger, Ralph Vallon, Mickey Rooney, comme quoi Corman, il a pas fait que des films de seconde zone avec des budgets de merde, il a fait également des films de série B avec des budgets relativement conséquents et un casting relativement honnête, on en conviendra. Sur Polar, une soirée avec le duo Alan Ladd, Veronica Lake, et deux films qui ont été tournés la même année. Le premier, c'est celui de Frank Tuttle, Tueur à gages, suivi la même année du film inspiré du bouquin de Hammett, La clé de verre de Stuart Eisler, avec le duo Alan Ladd et Veronica Lake. Mardi sur M6, Into the Wild de Sean Penn à 20h50 avec Emile Hirsch, que beaucoup de gens ont découvert. Et qui confirme d'ailleurs, moi je trouve, dans les films que j'ai vus.
Il avait tourné coup sur coup, je crois, la même année avec Speed Racer. Et ouais, non, c'était deux grands, un grand écart encore. Et puis ce film, il est très chouette, c'est une ode à.
Ah non, il est vraiment très bien.
Une ode
à la découverte.
Enfin, l'année dernière, il était à l'affiche de Killer Joe et de Savages, donc. Et il se démerde pas trop mal, quoi. Donc. Donc ça c'est mardi et un des films cultes de tout le monde ici à mon avis, peut-être pas Sushi parce que peut-être qu'elle le connaît pas, sur D8 mardi prochain, Un jour sans fin d'Harold Ramis.
Ah bah oui,
oh oui, si je connais.
Bill Murray magnifique. Ah tu connais quand même. Ah ouais, quand même quoi. Et sur Gulli, alors une petite curiosité, et là je pense que si JB était là, il dirait bien sûr du sport. Stardust, le mystère de l'étoile, voyons, inspiré du bouquin de Gaiman, quoi, voyons,
attention,
avec Charlie Cox, voyons,
il nous écoute, il nous envoie des
avec
SMS.
Claire Danes, avec Michel Pfeiffer, avec Henri Cavill, avec Robert De Niro.
Oui.
Réalisé par Matthew Vaughn en 2007, après Layer Cake.
C'est vrai.
Matthew Vaughn, d'ailleurs, et ça c'est la rubrique People, est marié à Claudia Schiffer depuis 2002, avec laquelle il a eu 3 enfants.
Oh, je savais pas, tiens.
Eh oui, Caspar en 2002, Clémentine en 2003, et très récemment, il y a 3 ans, Cosima Violette en 2010. Voilà, tout ça pour Stardust, le mystère de l'étoile, qui passe sur Gulli, donc mardi prochain. Mardi toujours sur D17, Killer Shark, le retour de Christy Swanson, la petite choupette, dans Buffy, dans le film de Griff First, un film de requin, mais il y a D.B. Sweeney, donc c'est bon, tout va aller pour le mieux. Mardi toujours sur Polar, L'espion qui venait du froid, le film de Martin Ritt, tiré du bouquin de John le Carré avec Richard Burton, Claire Bloom et Peter Van Eyck. Et sur FX, une soirée spéciale Barbara Steele, avec tout d'abord à 21h, Le mystère des morts vivants de Massimo Popillo en 65, suivi à 22h25 d'Un ange pour Satan, de Cristiano Mastrocinque en 1966, avec donc Barbara Steele pour les deux. Et sur OCS Géant, je dis toujours Ciné Géant, quoi. J'ai encore l'habitude de dire Ciné Géant, c'est dingue quoi. Sur OCS Géant, donc à 20h40, mardi prochain, Massiste contre les hommes de pierre de Giacomo Giantolillomo. Ça, je l'ai mal dit. Putain, il faut que je m'entraîne des fois. Et c'est Alan Steele dans le rôle de Massiste. Mercredi, des films de bestioles avec sur RTL9 à 22h35, Predator. Le 1, sur Sci-Fi à 20h45, Wolfman de Joe Johnston avec Benicio Del Toro, Blunt, Hugo Weaving et Anthony Hopkins. Et sur Ciné Plus Premier, Black Swan de Darren Aronofsky.
Très 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 beau.
Sinon, on a également un excellent western sur TCM, Les Massacreurs du Kansas, d'André de Toth avec Randolph Scott, Claire Trevor et George McCready.
Ah, juste un truc, comme tu parlais de Predator, donc ça y est, c'est officiel, John McTiernan a jusqu'à début avril pour se présenter aux autorités. Il va faire sa peine de 1 an de prison pour avoir espionné, enfin pour s'être parjuré et avoir nié avoir espionné son producteur à l'époque de Rollerball. Vous pouvez continuer d'aimer la page sur Face de Livre qui a été créée par nos amis du site Capture Mag, hein, qui a été cofondé par des anciennes Mad Movies, et qui ils expliquent à peu près quelles sont leurs intentions en essayant d'apporter le soutien à John McTiernan. Si vous aimez ce qu'il a fait, et que vous, c'est vrai qu'il passe pour un bouc émissaire dans cette affaire-là, vous pouvez liker cette page-là, vous cherchez Free John McTiernan, et vous, c'est en anglais, vous verrez.
like. Et de toute façon, tu vas liker ce qui suit les massacres de Kansas sur TCM mercredi prochain, parce qu'il s'agit de la première diffusion à la télévision française d'un film inédit de Stanley Kubrick.
Oh.
Ah bah ouais, tout le monde se dit,
ah oui, c'était le,
l'ultime razzia, ouais. The Killing, c'est le premier, nanana, mmh. Tout le truc et tout. Et il est vrai que ce film, bon, qui fait 1h05, considéré donc comme un film, pas un moyen métrage, on va dire. À l'époque, les films faisaient 1h10, 1h15, ça choquait personne. C'était parce qu'il y avait des doubles séances, quoi. Et celui-là, il faut dire que Kubrick, de son vivant, a toujours essayé de le cacher, à dire que c'est une merde.
C'est Fear and Desire, non ?
Fear and Desire, ouais, donc. Et donc, ce sera sur TCM après, donc mercredi prochain, après les massacres du Kansas,
c'est
la diffusion de Fear and Desire de Stanley Kubrick avec Frank Silvera, Paul Mazursky, qui joue qui interprète un des soldats dans cette histoire. L'histoire est très simple, c'est des soldats. Qui sont crachés en avion dans la jungle, ils savent pas où ils sont, et puis voilà quoi. Et donc il y a même pas trop d'ennemis, quoi, d'après ce qu'on dit. Donc c'est surtout un film basé sur l'instinct de l'homme par rapport à la pression, par rapport à l'inconnu et tout ça. Suivi de deux autres courts métrages de Stanley Kubrick, Day of the Fight et Flying Padre. Tourné en 51, donc ce Fear and Desire, lui, a été tourné en 1953, et la diffusion, eh bien, c'est mercredi prochain à partir de 22h sur TCM. Jeudi sur NT1, on a Blade Trinity de David Goyer, suivi de Hong
de
Bak,
la merde.
Donc de la merde et de la baston.
Hong Bak, c'est le 1.
Ouais, bah c'est le Hong Bak, ouais.
Ouais, bah,
quand je dis Hong Bak, c'est que c'est Hong Bak.
Ouais, ouais, c'est,
ensuite,
bien
sur D17. Le film où le mec, il se prend une branlée et ça a fait sa carrière internationale.
Ah, mais oui, Chuck Norris.
À la fureur du dragon.
Oui. Le Colisée.
Dans le Colisée. La pizza.
Et en plus, on a vu ses poils sur le torse.
Et ouais. Et le chat.
Ah, ça doit faire mal.
Et le chat noir.
Et le chat noir. Le chinois, par contre, lui, il est mort.
Et le chat noir qui se balade.
Le chat noir, oui.
Le Colisée.
Oui, donc sur le film de Bruce Lee, enfin avec Bruce Lee.
Sur Sci-Fi, un film où t'as des acteurs qu'il faut bien manger. Ghostquake, la secte oubliée de Jeffrey Scott Lando avec Jonathan Baron, Charisma Carpenter et Danny Trejo.
D'accord.
Okay. Et par contre, sur Ciné Plus Tard, une soirée délicieusement techno, country, à fond les manettes, mais de qualité quand même, avec à 20h45 Nashville Lady de Michael Apted, avec Sissy Spacek dans le rôle de Laura Terlin, Tommy Lee Jones dans le rôle de son mec et tout. Il joue un rôle, mais c'est un enculé fini, ce mec, c'est un enfoiré et tout. Puis vraiment, il le fait bien.
Pour faire les enculés.
En plus, à l'époque, il était très jeune et tout, même beau gosse, quoi, tu vois, quoi. Assez beau gosse, quoi, faut dire, quoi. Et là, tu te dis, bon, ok. Et c'est suivi de Bronco Billy de Clint Eastwood, donc un film un petit peu sur la même ambiance, quoi, avec Sandra Locke et Jeffrey Lewis. On termine avec Vendredi, et Vendredi, il n'y a pas grand chose, il n'y a que des films pour rigoler un bon coup vendredi prochain. Tout d'abord sur RTL9, alors RTL9, la soirée de vendredi prochain, réservée là, ça vaut le coup. Bon, c'est des films que nous on a déjà vus, mais si vous avez jamais vu ces films, ça vaut le coup. Tout d'abord à 20h45, Galaxy Quest de Dean Parizeau. Magnifique,
oh oui.
Avec Tim Allen, Sigourney Weaver, Alan Rickman, oui. Tony Shalhoub dans le rôle de l'extraterrestre, il est magnifique.
Ouais, si vous
non, mais
les,
si vous l'avez pas vu,
franchement,
il n'y a pas de problème. Et suivi de 22h35, Le Bon, la Brute et le Cinglé,
ah oui,
de Kim Jae-won. Donc, c'est une bonne soirée sur RTL9 vendredi prochain. Ou alors sur Ciné Plus Famille également. Une bonne soirée pour bien rigoler un bon coup avec à 20h45 Rango, le film d'animation de Gore Verbinski, qui est vraiment excellent, suivi à 22h30 de Dodgeball, même pas mal.
Ah voilà,
de Vince Vaughn et Ben Stiller.
Et on a parlé.
Et Lance Armstrong dedans.
Et surtout dans le rôle du jury. Chuck Norris.
Et Chuck, oui, c'est vrai.
Dans le rôle de Chuck Norris.
Et ouais, bah normal. Hein.
Obligé.
Allez, on a dépassé un petit peu et on a des invités tout de suite dans Ça c'est du sport. Alors fous-nous ce générique qui fait peur.
Pas encore ?
Non, c'est celui-là qui fait peur. Non, fait pas peur.
Thomas, il y en a qui sont arrivés en cours de route et qui ont été happés par l'émission et qui ont manqué des choses au milieu. Ma foi, qu'est-ce qu'ils ont manqué ?
Eh bien, ils ont manqué pêle-mêle un pot de blagues moisies, du Pedro Gradiola, des hommes minutes, un esprit non identifié, une île sans maton, une BD qu'on a raté le début, un fauteuil qui rouille sous la pluie, série club au 19e siècle, du fusil à pompe, la rubrique people impromptu, des bestioles, du Kubrick inédit et tout ça nana, des acteurs qu'il faut bien manger, du pyjama, du western coréen et du Chuck Norris.
T'as même pas dit la faute de prononciation ?
Si, je l'ai dit, le Pedro Gradiola au début.
Ah oui, pardon, excusez-moi, mais heureusement, si vous avez manqué tout ça, vous pouvez, grâce à la diffusion différée, vous pouvez réécouter nos archives compromettantes, vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission, mais aussi les précédentes, nos chroniques écrites. Ah bah tiens, j'ai oublié de les mettre sous les yeux.
Les chroniques écrites, il n'y a plus que toi qui écris des chroniques. Hein,
Oui, je sais, mais bon, mais justement, c'est pour ceux qui n'ont pas forcément la possibilité d'écouter et tout ça. Laissez vos commentaires, posez vos questions pour le courrier des auditeurs, n'hésitez pas, il suffit d'aller sur le site web de l'émission supplementweekend.fr avec les liens vers les réseaux sociaux supplementweekend.fr, et grâce à ça, et ben vous pouvez get in touch with nous.
Quel accent.
Vous écoutez Radio FMR sur 89.1 MHz. Nous sommes en direct et en alternance avec Booster FM, et on continue sur www.radio-fmr.net. Le prochain épisode aura lieu dans 15 jours, même heure, même fréquence.
Ouais, 15 jours.
On vous fait une blague, on n'est pas là.
Ah oui, avril, tout ça, ouais.
D'accord. Ah ouais, on enterre Carambar. Alors qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Allez, ciao, bye bye. Nous, on vous laisse avec Sushinette et du sport de suite.
Et avec l'équipe d'Australie de... Non, c'est pas ça ?
L'équipe de France d'Australie de foot de...
Non,
non. Non, j'y arriverai pas. Merci, merci à vous de votre confiance. À toutes. Je vais me faire frapper là à la sortie. Ils ont pas l'air commodes. Hein. Ah, mais vraiment pas. Non, je vous rassure, ils ont l'air d'avoir de l'humour.